Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce live exceptionnel en direct du parc départemental Georges Valbon à La Courneuve. Chers amis, je suis ravi de vous accueillir, à toutes les personnes qui sont ici en direct au parc Georges Valbon qui sont avec nous dans le public et à vous qui êtes en ligne sur Twitch. Bienvenue dans ce live en partenariat avec la Seine-Saint-Denis, un département magnifique pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de travailler il y a plusieurs années que ça. Et on va rencontrer des personnes merveilleuses. Autour de ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec des personnes qu'on va prendre le temps de présenter. Harry Brodage, salut Harry. Merci d'être avec nous, il faut toujours parler dans le micro et le plus proche possible de la bouche. Merci beaucoup Harry Brodage, tu es directeur de la transition écologique au conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
C'est exact.
Merci d'être avec nous, à côté de toi on est avec Excellent Kiaku. Salut Excellent.
Bonjour.
Ça roule?
Oui ça va,
merci. Et vous? Ouais, ça va carrément. Merci d'être avec nous, tu es membre du conseil de l'aide sociale à l'enfance. Tu nous expliqueras ce que c'est. Et à ma droite je suis avec Jalal Essalahi.
Bonjour.
Bonjour, comment tu vas Jalal?
Ça va, Marcel.
Merci d'être avec nous. Tu es membre du Café Solidaire des Tilleuls. Et tu nous expliqueras aussi ce que c'est. Et on va être rejoint sur ce plateau tout à l'heure par une personne qui manque encore à l'appel. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème, on est à la cool aujourd'hui. C'est Sabrine Boussetta qui est membre du Nouvel Élan 93. Elle viendra vous expliquer ce que c'est. On va commencer par toi, mon cher Harry Brodage, je le disais, directeur de la délégation à la transition écologique et à la résilience du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Alors, notre acronyme dit beaucoup de choses. Notre acronyme, c'est la DETER. Donc nous, on est une équipe de 9 personnes DETER, des électrons libres qui sommes directement attachés au directeur général des services du département. Donc on est du côté de l'administration. On est là pour mettre en œuvre les orientations politiques et on est là plus précisément pour accompagner tous les services dans la prise en compte de l'écologie dans leurs projets. Donc on n'est pas là pour faire, on est là pour faire avec. On est là pour impulser, pour accompagner, pour suivre la prise en compte de l'écologie dans les pratiques. Donc, vu les projets du département, ça se traduit par les collèges économes en énergie.
Ouais, j'allais demander, vous faites quoi par exemple? Donc, l'économie d'énergie dans les collèges.
Économie d'énergie.
Les collèges, je rappelle que c'est une compétence départementale.
130 collèges dans le département, donc économie d'énergie dans les collèges, lutte contre la précarité énergétique dans les logements, lutte contre la précarité alimentaire, offre éducative autour de ces questions de transition écologique dans les collèges. Développement des pistes cyclables avec un plan vélo, plantation d'arbres, gestion des parcs, dans tous ces domaines-là, il y a évidemment énormément d'enjeux de prise en compte de d'écologie. Je m'étais noté la restauration collective aussi, 70 000 repas servis chaque jour.
Dans 70 000 repas servis chaque jour en Seine-Saint-Denis.
Voilà, dans lesquels on va intégrer des enjeux de végétalisation, des enjeux de diversification des aliments, de transformation de produits fabriqués, en tout cas qui poussent localement. Voilà, un ensemble d'enjeux qui va se décliner en autant de thématiques qu'on a de compétences au département.
Tu as plus de 20 ans d'expérience dans le service public et si je me suis bien renseigné, tu as été le lauréat du prix du manager public de l'année 2018.
Oui, tu es très bien renseigné.
non mais c'est très cool, c'est quoi, ça veut dire quoi?
C'est la reconnaissance d'un travail collectif qu'on a mené de 2015.
Les demandes de vacances.
C'est ça. C'est moi qui valide les congés. C'est à l'époque où je travaillais pour la banlieue de la Seine-Saint-Denis, la ville de Paris.
Grande banlieue là-bas. Ouais.
Et on mettait en place un projet de budget participatif, 100 millions d'euros par an, donné aux habitants pour définir leurs projets et qui, s'ils étaient votés, étaient mis en œuvre. Donc énorme transformation de nos manières de fonctionner, partir de l'expression de besoins des habitants pour la transformer en réalité concrète. Et j'étais au cœur de ce dispositif pour animer un collectif de fonctionnaires qui a transformé la manière de travailler de l'administration afin de rendre réel ses votes et ses vœux et de dépasser l'offre de financement pour vraiment réaliser tout ce qui nous était demandé au travers de ce dispositif. Voilà, donc c'est une belle reconnaissance.
Hein. Chapeau. C'est impressionnant. Alors si vous entendez de la musique derrière nous, c'est normal, on est ici au parc Georges Valbon à La Courneuve dans un dispositif du conseil départemental qui s'appelle le Bel Été où il y a plein d'événements qui se passent partout autour de nous. Il y a des activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes et il y a une grande scène tout au fond derrière nous et ils sont en train de faire les balances, ils sont en train de faire les réglages pour les gros concerts de ce soir. J'ai pas vu, il y a qui ce soir d'ailleurs en concert?
DJ Abdel.
Faut le dire dans le micro.
DJ Abdel,
classe. Super classe, DJ Abdel, ce soir, ici, en direct du parc Georges Valbon. Si vous n'habitez pas loin, vous pouvez encore venir, venez nous rejoindre. On est également, je le disais, avec Excellent Kiaku. Excellent, tu es membre du conseil de l'aide à l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance.
Je suis plutôt membre du conseil de jeunes Seine-Saint-Denis, qui est un organisme...
Alors, explique-moi.
C'est un organisme avec... le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, mmh. où on réunit à peu près tous les enfants placés qui sont pas, ou bien qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Et on essaie de réfléchir à des idées, des projets pour améliorer les conditions de vie des jeunes enfants placés ou des jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. On a proposé des projets comme la Boost Études, qui est un coup de boost, une bourse supplémentaire pour accompagner les jeunes qui décident, après l'accompagnement de l'ASE, après leur fin du contrat jeune majeur, de poursuivre des études longues. Et on sait bien que parfois, quand on est étudiant et qu'on poursuit des études hyper longues, on peut avoir vraiment des problématiques hyper compliquées, entre enchaîner les travails, finir parfois à 4 heures du matin, des travaux qui sont très pénibles, et parfois enchaîner des études longues comme à la fac qui demandent une certaine exigence, une certaine rigueur. Et c'est pour ça qu'on a proposé des projets comme ça.
Ok, c'est hyper intéressant. Tu sens que c'est utile pour améliorer l'ASE ?
Oui, parce que c'est des idées, c'est plutôt des politiques publiques où on ne décide pas seulement pour les gens, mais on demande aux gens qui ont été, qui ont subi ou bien qui ont une expérience vraiment dans ce à quoi l'État veut agir, dans ce à quoi les départements veulent agir, justement pour améliorer leurs conditions de vie. C'est hyper utile, je pense.
J'ai noté que vous avez travaillé sur l'autonomie, sur la scolarité, sur les conditions d'accueil, sur les droits et les libertés, sur la vie sociale, sur la santé mentale, sur le vivre ensemble. C'est énormément de thématiques. Elles sont devenues quoi, les propositions que vous avez faites ?
Par exemple, l'autonomie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la bourse études, mais en termes d'autonomie, on a eu beaucoup de projets, notamment pour accompagner les jeunes après leur fin d'ASE, comme... Par exemple, on a créé des dangers, on a fait une liste des dangers qui pouvaient avoir des jeunes. Moi, par exemple, en sortant de l'ASE, j'ai souvent eu du mal avec tout ce qui est banque, assurance. Ouais. Je me suis fait longtemps avoir sur des offres qui étaient forcément malhonnêtes. Et avec le conseil des jeunes de l'ASE, on essaie vraiment de prévenir les dangers qui peuvent subir un jeune adulte qui n'est pas préparé à l'autonomie et à qui découvre tout dans la nature. Et voilà, pour ne pas qu'il soit vraiment comme une proie, mais plutôt qu'il s'adapte et qu'il s'intègre.
Bah, c'est super impressionnant. En tout cas, bravo pour tout ce travail qui a été fait donc, par le Conseil des jeunes.
Merci.
On continue avec... Et elle nous a rejoint sur ce plateau. On est très content de l'accueillir. On est avec Sabrine. Je vais vous laisser partager le micro entre vous deux. Salut. Merci. Sabrine. On peut applaudir Sabrine très, très fort. Salut Sabrine.
Bonjour à tous.
Je le disais en te présentant avant que tu sois là, tu es membre de Nouvel Élan 93.
Exactement.
C'est quoi ?
En Nouvel Élan 93, ça a été une association créée principalement pour inspirer la jeunesse et notamment la jeunesse de banlieue. Donc voilà.
Ok, d'accord. Et alors vous faites quoi comme activité ?
Alors on fait des interviews, il y a beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. Là c'est le début de l'association.
Vas-y, dis-nous.
Je ne vais pas trop spoiler, mais il va y avoir plusieurs concepts. Un concept story time, des documentaires... Et plein de contenus inspirants pour la jeunesse. Et puis, j'en dirai pas plus.
Vous faites des actions de solidarité locale aussi ?
Aussi, exactement.
Vous essayez de démontrer quoi à travers ça ?
Du coup, démontrer qu'on peut y arriver, qu'on est tous solidaires dans le 93 principalement.
Trop bien.
Merci.
Non, mais c'est un super projet. Non, mais vraiment, bravo.
Oui, c'est super inspirant.
À côté de toi, donc, Jalal, tu es membre du café associatif des Tilleuls. C'est un tiers-lieu qui est engagé et qui est implanté au cœur du quartier des Tilleuls, au Blanc-Ménil. Raconte-nous, c'est quoi ce tiers-lieu ?
C'est un café associatif. L'offre socle, c'est une cuisine sociale et un débit de boisson. Et sur la base de cette offre socle, on a développé une programmation destinée aux personnes isolées. Donc l'objet de l'association, c'est de lutter contre l'isolement social. Des personnes en perte d'autonomie, ça va être notamment les personnes âgées ou porteuses d'handicap, des mineurs isolés, des personnes éloignées de l'emploi. Et l'idée, c'est de leur mettre à disposition un espace de convivialité qui ressemble à leurs attentes et ils s'y mènent des actions qui sont déterminées par les usagers du lieu.
Alors, chose intéressante, si je ne dis pas de bêtises, vous redonnez vie à un quartier désaffecté aussi.
Absolument. L'association est implantée en plein cœur du quartier qui fait l'objet d'un projet de renouvellement urbain qui va aboutir à la réhabilitation et à la démolition d'une grande partie du quartier. Et c'est le dernier espace qui propose des services sociaux à la population avec la pharmacie.
Merci à tous les quatre, tous les trois en tout cas, vous êtes des jeunes de la Seine-Saint-Denis. Harry, tu es avec nous, tu représentes ici le conseil départemental. Vous êtes des jeunes inspirants et des jeunes engagés dans la Seine-Saint-Denis. On va parler d'écologie dans cette émission, c'était ça qu'on s'est donné comme défi, mais on va pas parler d'écologie n'importe comment. On va en parler du point de vue de la jeunesse et du point de vue de la Seine-Saint-Denis. On va entrelacer ces deux points de vue dans une discussion. Dites-moi autour du plateau, pour vous, est-ce que ça vous parle, l'écologie? Est-ce que c'est important? Qui veut répondre? C'est open. Excellent, je te sens chaud.
Oui, bah moi je dirais l'écologie, c'est quand même très très important au vu de ces dernières années, au vu des changements climatiques qui peuvent avoir tout autour de nous. C'est quelque chose vraiment très très important.
En quoi ça concerne les jeunes, l'écologie? Sabrine?
Du coup, moi, je voulais un peu rejoindre ce que Excellent disait. Moi, pour le coup, l'écologie, je ne me sentais pas forcément concernée il y a quelques années. Donc là, pour le coup, c'est très, très récent. Donc, pour dire à quel point on n'est pas forcément sensibilisé à ça dès le plus jeune âge et que ce n'est pas forcément fait pour les personnes de banlieue, j'ai envie de dire, en général.
Alors, je précise que ce live qu'on fait aujourd'hui, il s'inscrit, c'est un des moments forts de la concertation jeunesse qui a été lancée par le département de Seine-Saint-Denis. Harry, raconte-nous, c'est quoi cette concertation?
C'est une grande phase d'écoute et de dialogue à destination des 15-25 ans, qui est portée par Oriane Filleul et mes collègues de la délégation jeunesse et vie associative, qui vise, comme son nom l'indique, à dialoguer, à concerter pour identifier, mieux comprendre, tu le disais, partir de l'expression des besoins, des attentes, des ressentis de cette jeunesse vis-à-vis des politiques publiques. C'est une concertation qui va aboutir à l'automne avec deux objets. Le premier, c'est une politique départementale pour la jeunesse, donc un dispositif concret, opérationnel. Le département va prendre sa part dans la réponse à tout ce qui va être exprimé. Et puis un livre blanc qui va être mis en ligne, je crois, dans le courant de la semaine prochaine. Un livre blanc donc, qui servira plus de dispositif de plaidoyer vis-à-vis de l'État, par exemple, parce qu'on n'est pas l'État, on est le département. Ouais. Et donc un outil d'interpellation que les jeunes vont être amenés et invités à compléter avec nous à partir de la semaine prochaine. C'est un dispositif de concertation qui, je disais, vise la jeunesse, mais vise aussi les professionnels en lien avec les jeunes.
Professionnels de la jeunesse. Animateurs, notamment.
Exactement, éducateurs. Toujours, évidemment, eux aussi, très important de les entendre. Il y a eu des échanges avec les professionnels de la jeunesse, donc des demi-journées thématiques sur la santé mentale, sur l'insertion, sur la culture, pour dialoguer autour d'enjeux d'actualité, d'une grande actualité. Il y a eu un travail de carte blanche aux associations pour qu'elles donnent la parole aux jeunes avec lesquels elles travaillent ou avec lesquels elles se mobilisent. Et des échanges directs, comme aujourd'hui, très ouverts. Qui permettent de créer des échanges et des canaux de dialogue tout à fait directs entre le département, la jeunesse, les associations qui les représentent, les professionnels qui travaillent avec eux. Donc c'est cette grande phase qui vise vraiment à partir d'une expression de besoin, d'un ressenti, de représentation, pour travailler avec cette expression sur la mise en place de mesures concrètes.
Je vois dans le chat qu'il y a quelques petits problèmes de diffusion du stream, mais c'est normal, vous savez, c'est les joies du direct et c'est les joies de l'organisation d'un live en direct d'un parc ici en extérieur, le parc Georges Blalbon. Vous inquiétez pas, la régie est en train de travailler pour rétablir la connexion. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Je vois en tout cas dans le chat, il y a beaucoup de gens qui soutiennent vos associations. Il y a des gens qui vous connaissent, il y a des gens qui vous kiffent, ça fait super plaisir. Un truc assez intéressant, est-ce que vous connaissez la part des moins de 15 ans en Seine-Saint-Denis? Harry, si tu connais la réponse, je te demande de ne pas la donner. Est-ce que vous connaissez la part des moins de 15 ans en Seine-Saint-Denis?
C'est que c'est le département le plus jeune de France métropolitaine.
Ouais.
Ça doit être assez important.
On est à 1 sur 4. Une personne sur 4 a moins de 15 ans en Seine-Saint-Denis. Combien de personnes ont entre 15 et 29 ans? Donc entre le brevet et, 29-30 ans. Vous avez une idée ou pas? Non, ça fait rien. Et je regarde si dans le chat, il y en a qui savent. 330 000 personnes en Seine-Saint-Denis. 330 000 personnes ont entre 15 et 29 ans. Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans. Vous le connaissez? Oh, celui-là, vous pouvez l'estimer. Même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez l'estimer. Vas-y, Excellent.
60%.
60% de taux de chômage. Ok, qui dit mieux, qui dit différent?
Je dirais moins quand même. Plus, dans les moitié moins.
Moitié moins 30?
Ouais.
Ok, d'accord. Harry, t'as la réponse?
La réponse précise, moi j'aurais été plutôt à 25, mais...
Bah, c'est encore plus bas, c'est 20. Vous avez tous été très pessimistes. T'y allais fort là, excellent, je trouve quand même. Non, je peux vous dire aussi qu'en Seine-Saint-Denis, pour qu'on connaisse un peu mieux ce département, près de 30% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Un logement sur 5 est considéré comme potentiellement indécent. Et en période de canicule, les écarts de température entre les quartiers peuvent atteindre jusqu'à 4 degrés selon l'urbanisation et la végétalisation. La justice climatique, c'est pas la même pour tout le monde, est-ce qu'on est bien d'accord? La justice climatique, ça vous parle ou pas? Ouais. Excellent.
Oui, la justice climatique, c'est quelque chose de très important qui s'est développé au cours de ces dernières années. Pour faire simple, c'est un peu l'action des individus qui saisissent la justice, qui saisissent le gouvernement, les tribunaux pour qu'il y ait une action du gouvernement pour limiter en tout cas les impacts que peuvent avoir les grandes firmes, que peuvent avoir certaines personnes qui causent des préjudices écologiques, qui peuvent commettre des crimes d'écocide, justement pour limiter leur impact sur les climats qui peuvent être très désagréables ou très nocifs pour les individus.
Harry ?
Il y a effectivement cette approche juridique qui est centrale, et je dirais que le concept s'est un peu élargi. On est sur un territoire assez particulier, mais avec tous les chiffres que tu as donnés, on le devine, où la population est à la fois moins contributrice des pollutions et des nuisances, plus exposé aux conséquences des pollutions et des nuisances du fait de l'état du logement, par exemple, ou de l'urbanisation, qui dispose de moins de moyens pour faire face à des dispositifs. On va en parler pas mal, pour prendre l'exemple de canicule.
On va parler.
Voilà, donc la question, c'est comment on corrige cette équation un peu cruelle de « je contribue moins à la pollution, mais je suis plus exposé à ses conséquences et j'ai moins de moyens pour m'en sortir ». Et pour y faire face. La justice climatique, c'est vraiment un dispositif de prise en compte de ces enjeux pour imaginer un dispositif juste, de transition écologique juste, qui permette à chacun, partant de sa situation, de faire face à ces enjeux de bouleversement climatique.
Pendant 1h30, on va discuter avec des jeunes du territoire, des membres d'associations, de collectifs ou tout simplement des personnes concernées. On va aussi discuter sur ce plateau avec des élus du département. On aura une carte blanche de l'association Get Up. Et puis on aura vous, évidemment, bien sûr, dans le chat. N'hésitez pas à réagir tout au long du live. Vous êtes en face de moi, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Soyez avec nous dans cette émission. C'est un live qui vous concerne parce que la justice climatique nous concerne toutes et tous. C'est une question de dignité, de conditions de vie décentes pour aujourd'hui et surtout pour demain. Donc restez avec nous, on va commencer tout de suite en parlant d'un sujet qui chauffe littéralement, il s'agit de la canicule. Ce qui frappe maintenant, c'est que la canicule, elle débarque de plus en plus tôt et de plus en plus fort. Cette année, on a eu le droit à des épisodes caniculaires dès la fin du mois de mai. Alors on va en parler un peu ensemble. Comment vous avez vécu, vous, sur ce plateau, ce premier épisode, le dernier épisode, pardon, de forte chaleur? Jalal, tu l'as vécu comment, toi?
J'habite un quartier populaire, et pour illustrer le rapport à l'environnement des habitants des quartiers populaires, j'aime bien emprunter cette punchline d'IAM dans Demain c'est loin, joli nom d'arbre pour des bâtiments dans la forêt de ciment. En l'occurrence, mon quartier s'appelle le quartier des Tilleuls, et j'observe qu'y compris au sein d'un même quartier, on n'a pas le même degré d'exposition aux nuisances du dérèglement climatique. En l'occurrence, quand il y a des canicules, moi j'ai la chance d'habiter dans un quartier qui est très fleuri de tilleuls. Ouais. Et pour le coup, je suis bénévole dans une association dans le même quartier, mais qui est dans un îlot de chaleur avec pas beaucoup d'arbres autour. On fait de son mieux, hein, on nous donne des consignes, on s'hydrate, on prend soin des personnes vulnérables, mais on voit bien qu'il y a un rapport à l'environnement qui est plus ou moins inégal.
C'est vrai, effectivement. Harry, comment est-ce que le conseil départemental a pris fait et cause pour cette cause, justement, celle de la lutte contre la canicule?
La démarche le grand changement de ces dernières années, c'est effectivement la compréhension que quand on parle d'écologie, il ne s'agit pas seulement de protéger la planète pour éviter des bouleversements qui pourraient éventuellement advenir, mais aussi d'apprendre à vivre avec des dérèglements qui, parce qu'à l'échelle planétaire, on n'a pas su agir à la hauteur des enjeux, sont désormais inéluctables. Alors, il faut continuer à réduire nos pollutions pour rester dans des situations gérables, évidemment, parce que là, on paye avec la canicule les conséquences du carbone qu'on a émis il y a 15 ans. Donc il faut continuer à réduire pour que ça ne s'aggrave pas. Et en même temps, il faut apprendre à faire face. Donc anticiper ces phénomènes pour le département de la Seine-Saint-Denis, ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord réduire l'exposition à la chaleur. Je le disais, planter des arbres, désimperméabiliser les espaces publics, développer, on en voit dans tout le parc, des brumisateurs, des jeux d'eau pour faciliter le rafraîchissement, accompagner la réhabilitation des logements, réhabiliter nos propres équipements publics pour que effectivement on n'ait pas de malaise d'élèves dans les collèges au mois de juin et qu'on arrive à maintenir un confort thermique. Toute cette anticipation-là de réduction de l'exposition, on l'amène depuis plusieurs années maintenant. C'est des projets à 10, 15, 20 ans qui mobilisent des milliards d'euros, qui sont des vrais projets d'investissement lourds pour réduire l'impact des canicules. Le deuxième, tu parlais des solidarités. Le deuxième, c'est effectivement comment on réduit les vulnérabilités. Il y a un chiffre que tu n'as pas cité, mais qu'on considère beaucoup, c'est que 30% des logements en Seine-Saint-Denis sont suroccupés. Suroccupés, ça veut dire que chaque être humain est un radiateur, donc on produit de la chaleur. Donc quand dans un logement suroccupé, on est beaucoup plus sensible à la canicule, en plus quand il est mal isolé, que dans un logement grand et bien isolé, traversant, etc. Donc réduire les vulnérabilités, c'est... Par exemple, créer et multiplier les espaces refuges, des espaces où les gens vont pouvoir venir trouver de la fraîcheur. C'est affirmer ce droit à la fraîcheur qu'on doit continuer à développer en Seine-Saint-Denis. C'est créer des partenariats avec des assos de quartier, justement pour des solidarités de proximité autour des trucs et astuces pour lutter contre la chaleur quand on n'a pas la chance de vivre dans un grand logement traversant, climatisé ou rafraîchi. C'est accompagner les travailleurs sociaux dans l'appropriation de ces enjeux pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité d'accompagner les habitants. Et c'est lutter contre des formes de précarité qui renforcent les fragilités face à la canicule. Je pense à la précarité alimentaire ou à la précarité énergétique. Ça, on le fait depuis un peu plus récemment. Mais c'est le deuxième volet d'anticipation, vraiment la réduction des vulnérabilités auxquelles on doit s'atteler. Et le troisième volet, mais je crois qu'on en parle un tout petit peu plus tard, c'est apprendre à agir face aux crises, c'est-à-dire agir en situation quand une canicule est là. Comment on fait, mais encore une fois, je pense qu'on va en reparler, pour maintenir nos services publics et développer le service à la population, protéger les plus vulnérables.
Ouais. Toi, excellent, à quel moment, est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es dit « Ok, le climat, c'est pas une blague » T'as eu un déclic comme ça ou pas?
J'ai pas forcément eu des déclics, mais au fur et à mesure, il y a cet impact-là sur les réseaux où on voit parfois des jeunes dans des plages nettoyées. Et c'est là, engagé en moi en tout cas, une forme de conscience et de sensibilisation quand je vois des vidéos ou des images où l'époque de Greta Thunberg, vu que voilà, c'est un peu l'image de la figure qui s'est vraiment révélée comme cause climatique, et quand tu vois un peu tout ça en tant que jeune, forcément ça te donne envie de t'intéresser à la protection de la planète, à prendre soin un peu de ta planète, car on n'a qu'un seul foyer.
T'as bien raison. Sabrine, est-ce que tu trouves que l'école ou les études parlent assez des enjeux climatiques ?
Justement, moi je trouve qu'on en parle souvent dès la petite section, mais pas forcément assez. Souvent c'est des sujets auxquels on ne s'intéresse pas forcément, qui ne nous intéressent pas quand on est très jeune, donc en maternelle, primaire. On s'y intéresse souvent grâce aux réseaux sociaux, notamment à partir du lycée, et surtout quand on se sent concerné. Personnellement, j'ai commencé à me sentir concernée en voyant les impacts de la fast fashion, par exemple. Donc voilà, pas forcément grâce à l'école ou quoi que ce soit, c'est vraiment grâce à mon expérience personnelle et chacun grâce à son vécu notamment.
Jalal, est-ce qu'il y a une initiative, un collectif, un truc local ou national qui t'inspire ou qui te donne un peu d'espoir? À part ce que tu fais
déjà. À part le département de la Seine-Saint-Denis.
On voit se multiplier les collectifs militants qui luttent contre les effets du dérèglement climatique. Je peux penser au soulèvement de la Terre. Urgence Extinction, Alternativa, et peut-être ce qui me donne de l'espoir, c'est non seulement la structuration d'espaces de lutte comme ceux-là, qui sont des espaces alternatifs, mais aussi la perspective que ces militants écologistes croisent leur lutte avec d'autres militants. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis très mobilisé sur les questions de logement et de renouvellement urbain. Je me dis qu'une collaboration entre les soulèvements de la terre et le collectif Passons Nous qui lutte contre les rénovations urbaines sans concertation, ça peut aboutir à des solutions adaptées aux besoins exprimés des territoires concernés, surtout que ça touche en fait à la sociologie que vous évoquiez, à savoir que c'est des territoires jeunes mais pauvres et pour qui c'est souvent la double voire la triple peine.
Harry ?
Ça, en un mot, c'est effectivement le cœur du sujet, c'est qu'effectivement, tu le disais aussi tout à l'heure, quand on parle d'écologie, en Seine-Saint-Denis, on entend quand même souvent « l'écologie, c'est pas pour moi ». Par contre, quand on sonde les préoccupations des habitants, des jeunes, et le rapport de GetUp, le dialogue tout à l'heure avec Sarah Maria sera hyper intéressant à cette zone-là notamment, bah, on entend parler de santé, on entend parler de logement, on entend parler d'alimentation, on entend parler de mode. Et tous ces thèmes-là, qui sont des thèmes de préoccupation évidemment légitimes et centraux, mais on peut les lire au prisme de l'écologie. Et on peut les partir de là, et c'est là où d'ailleurs les concertations sont fondamentales, partir de l'expression des besoins, des ressentis, des priorités, pour ensuite parler d'écologie. Pas partir de l'écologie pour interroger ces questions. Donc sur le logement, effectivement, à partir du thème du logement, on parle de précarité énergétique, on parle de santé, parce que quand il y a de l'humidité, quand il y a des moisissures, il y a des problèmes de santé qui se créent. On parle de confort thermique en été, de bouilloire en été et de passoire en hiver. Donc on peut ensuite ouvrir la discussion sur l'écologie et c'est hyper intéressant de partir de là.
Je pense que cet aspect de concertation, il est vraiment important parce que la meilleure façon d'élaborer une norme contraignante avec laquelle les bénéficiaires de la norme seront impliqués et trouveront la règle légitime, c'est en l'élaborant avec eux. Et ça s'apprécie dans tous les quartiers de Seine-Saint-Denis où il y a des renouvellements urbains. Quand on prend vraiment la peine de demander aux gens ce qu'ils veulent pour leur quartier et la réhabilitation de leur quartier, ils tiennent aux espaces verts. Par exemple, nous, on nous supprime un square avec des arbres presque centenaires. Lors de réunions publiques, il y a des habitants qui ont exprimé « Est-ce que vous allez végétaliser les toits pour remplacer les arbres que vous allez découper ?» Et ça, c'est typiquement des exemples qui vont dans le bon sens, je pense.
Oui, c'est un très bon exemple, effectivement. On va continuer à parler de canicule. Je vous ai concocté un petit quiz, chers amis. Vous allez réfléchir autour du plateau, vous allez devoir essayer de trouver les bonnes réponses. Et si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Mais je vous laisse galérer. N'hésitez pas à prendre la parole pour donner, selon vous, la réponse que vous pensez être la bonne. Si ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave, rassurez-vous. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Et vous aussi, dans le public, vous pouvez réfléchir et jouer. Et vous, dans le chat, évidemment, je compte sur vous pour jouer à ce petit quiz. Première question. Selon l'INSEE, à quoi est le plus fortement lié l'exposition à la canicule ? Qu'est-ce qui aggrave le plus la canicule ? T'en sais rien, Jalal ? Tu l'as dit tout à l'heure.
Je pense le fait de densifier, de concentrer les populations au même endroit.
Et c'est la bonne réponse, c'est la densité de population et les îlots de chaleur. Les zones urbaines denses, sans ombrage ni espace vert, concentre des températures le jour et la nuit qui sont plus élevées. Les ménages modestes y sont particulièrement exposés, souvent dans les logements mal isolés ou vétustes. Deuxième question. Quel est le risque principal pour les jeunes vivant dans des logements mal isolés lors d'un épisode caniculaire ? Qu'est-ce qu'on risque le plus ? Peut-être que ça vous est arrivé.
De faire un malaise ?
Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. D'autres idées ? Excellent. Qu'est-ce qu'on risque si vraiment on meurt de chaud ? Enfin, oui, on peut mourir, c'est sûr, mais... non, mais si vraiment on a trop chaud.
Je dirais, comme la dame, on risque de s'évanouir, faire un malaise, je dirais plutôt ça.
Effectivement, ce qu'on risque le plus, le risque sanitaire majeur, c'est ce qu'on appelle l'hyperthermie, on appelle aussi le coup de chaleur, avec une déshydratation aiguë. Et le plus grave, c'est la déshydratation. Ça peut conduire à des troubles sévères, de l'épuisement, des malaises, voire une hospitalisation dans les cas les plus graves. Donc la canicule, c'est pas juste il fait chaud, c'est potentiellement dangereux, notamment pour des jeunes qui sont dans des logements mal isolés, dans des îlots de chaleur dont on parlait avec Jalal tout à l'heure. Troisième question. Selon vous, que font les institutions publiques en Seine-Saint-Denis en période de canicule pour prendre soin des habitants ?
On a tous vu passer les fameux numéros verts et les plans climatiques avec des consignes dans les établissements recevant du public, etc.
Ok. Il y a d'autres réponses ? Harry, je te laisse donner la réponse.
Les réponses. La première chose, c'est que quand on bascule dans ce que l'État appelle vigilance rouge, puisque l'alerte vient de là, hein, de Météo France et de l'État, on déclenche une cellule de crise. On déclenche un endroit où on va se réunir avec tous les services de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, pour réfléchir aux moyens de protéger la population. Évidemment, ça passe par de l'information, mais c'est, je dirais, l'étape nécessaire mais pas suffisante. Nous, on a deux priorités. La première, c'est de maintenir nos services publics. tu le disais, il y a des, en Seine-Saint-Denis, il y a des logements mal isolés. Et dans ces logements mal isolés, parfois, il y a des très jeunes enfants qui font partie des catégories de public très vulnérables à la canicule. Hein, c'est les très jeunes et les très âgés les plus vulnérables. Bon, ben, on préfère les accueillir évidemment dans nos crèches que de les laisser dans des appartements qui surchauffent. Donc notre priorité, c'est de maintenir des équipements publics ouverts. Donc c'est d'avoir anticipé assez pour qu'ils soient rafraîchis, que la température n'y grimpe pas trop, que des professionnels puissent y travailler. Ça veut dire aussi, et c'est un peu ça, protéger nos agents, informer nos agents, accompagner nos agents pour qu'ils soient en capacité de travailler dans nos services publics. C'est vrai pour les crèches, c'est vrai pour la protection maternelle et infantile, c'est vrai pour les circonscriptions sociales. Il faut qu'on maintienne nos services publics ouverts, c'est notre première priorité. Et notre deuxième, c'est de renforcer nos services publics parce qu'on a notamment la compétence des personnes les plus âgées. Donc on déclenche des campagnes d'appel, on déclenche des systèmes de vigilance pour s'assurer que tous nos allocataires, par exemple, d'aide sociale vont bien et s'organisent pour s'hydrater, pour avoir un peu d'accès à la fraîcheur. Notre action, elle passe aussi par des choses très simples, hein, des parcs comme celui-là et tous nos parcs départementaux. Dès lors qu'on passe en vigilance orange, voire rouge, ça dépend, mais c'est assez systématique, sont ouverts 24/24, puisque l'idée, c'est de donner de l'accès à la fraîcheur et de renforcer l'accès à la fraîcheur, donc à la fois maintenir nos services publics, les renforcer, mais aussi protéger la population par ce type de mesures, en ouvrant nos parcs notamment, et en développant les dispositifs de rafraîchissement dans l'espace public.
Quatrième question, vrai ou faux, certains quartiers peuvent être jusqu'à 4 degrés plus chauds que d'autres pendant une canicule. Je vois un gros oui de la tête de tout le monde. C'est vrai pour vous ? Eh bien, la réponse est vraie, absolument, c'est tout à fait vrai. En région parisienne, l'îlot de chaleur urbain crée un écart de température jusqu'à plus 3 degrés le jour et plus 5 degrés la nuit en cœur de ville comparé à la campagne. Et plus localement, en Seine-Saint-Denis, les seuils canicules sont fixés à 31 degrés en journée et à 21 degrés la nuit. Contre, à titre de comparaison, j'ai regardé avec les Yvelines. Les Yvelines, c'est 34 degrés le jour et 18 degrés la nuit. Donc on voit qu'il fait quand même vachement plus chaud en Seine-Saint-Denis. Les écarts peuvent dépasser 4 degrés, notamment la nuit, entre des zones urbaines très minéralisées et d'autres plus végétalisées ou rurales. Vous l'avez déjà ressenti, vous, la chaleur dans des îlots de chaleur juste en se promenant dans la rue ? Ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte qu'il fait une chaleur à crever juste parce qu'il n'y a pas d'arbres autour de vous, quoi ?
Bah, il suffit de comparer quand on se promène dehors en période de canicule dans un endroit bétonisé et quand on est à l'abri d'un arbre. Ça n'a absolument rien à voir. Donc oui, je pense que ça se mesure assez... C'est palpable, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte de ça. C'est assez stupéfiant, d'ailleurs. Selon vous, quel pourcentage des logements en France sont encore des passoires thermiques ? Quel pourcentage des logements sont des passoires thermiques encore aujourd'hui en France ? Pas en Seine-Saint-Denis, en France.
3.
Ouais, trop, ça c'est sûr. Mais vous avez une idée du pourcentage ou aucune idée ? Jalal, vas-y.
Entre 15 et 20%.
Ok, 15 et 20%, pas mal. Sabrine, t'as une idée ? T'en sais rien ? Ok. Eh ben, on va garder la réponse de Jalal parce que c'était la bonne réponse. C'était 15,7% des logements. Ça représente 4,8 millions de logements et des résidences principales en France qui sont classées F ou G, donc des vraies passoires thermiques. C'était le dernier décompte au 1er janvier 2023. Dans le parc locatif privé, ce sont 1,5 million de logements, soit 18,5% qui sont concernés. Et le parc locatif social, c'est 0,4 million qui sont des passoires F ou G. Je rappelle que les logements qui sont classés G+, sont interdits à la location depuis janvier 2023, mais il y a 119 000 d'entre eux qui restent en location quand même. Il y a 119 000 logements qui sont encore en location alors que c'est interdit, ils ne devraient pas l'être.
Malheureusement la loi de l'offre et de la demande. Il y a une demande très forte pour le logement qui peut autoriser des propriétaires à s'émanciper des règles qui sont fixées pour protéger les locataires. Et effectivement, on constate aujourd'hui encore des mises en location de passoires thermiques. Et j'insiste sur le fait qu'effectivement, la passoire thermique, c'est on a très froid en hiver, mais c'est une bouilloire en été. Donc c'est moins le logement est isolé, plus il laissera rentrer la chaleur. Et plus les habitants seront exposés aux conséquences en termes de santé dont tu parlais tout à l'heure.
Il est temps de passer au sujet suivant et donc de vous remercier chaleureusement, chers amis, d'être venus sur ce plateau. Vous pouvez les applaudir très fort.
Merci beaucoup.
Je vous laisse quitter le plateau.
Merci beaucoup.
Je vous laisse quitter le plateau. Merci à Harry, merci à Excellent, à Sabrine et Jalal qui ont accepté de venir se prêter au jeu de cette émission. On est toujours en direct du parc Georges Valbon et j'invite à venir sur le plateau mes invités suivants, Christiane, Moussa et Greazi, pardon. Installez-vous, mettez-vous bien. Parfait, on va prendre le temps de vous présenter. On est avec Christiane Fagbemi, salut.
Salut.
Faut bien parler dans le micro.
Oui, pardon, salut.
Je t'en prie. Tu es présidente de l'association Cité des Chances.
C'est ça.
Merci d'être avec nous, je vois que t'as le logo et tout.
Trop classe. Corporate un peu.
La corporate et tout jusqu'au bout. On est avec Moussa également.
Bonjour.
Salut Moussa. Moussa Reski, tu es membre de l'association Jeunes Espoirs.
C'est ça, je suis bénévole pour Sport Jeunes et aussi pour le TILIA à certains moments.
Ça se dit Espoir Jeune ou Jeunes Espoirs ?
Espoir Jeune.
C'est Espoir Jeune, excuse-moi, je l'ai écrit à l'envers,
je suis
désolé. Et on est avec Greazi Abira. Salut Greazi.
Salut.
Merci d'être avec nous. Tu es directeur national de Graines d'Orateur 93.
Oui, on peut dire ça.
On peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça.
Est-ce que tu as d'autres qualités en plus ?
Aussi, mais on va pas les étaler.
Allez. T'inquiète, on va continuer à approfondir le sujet de l'écologie et des jeunes. Dans tout ça, on va en parler. Alors Christiane, je le disais, tu es la présidente de l'association Cité des Chances, une association qui a été fondée en février 2018. Cité des Chances promeut l'engagement citoyen des jeunes issus des quartiers populaires, notamment en Île-de-France. C'est quoi vos activités, vous faites quoi ?
Chez Cité des Chances, on s'est donné pour mission de promouvoir l'engagement citoyen, si je peux le résumer un peu grâce à notre devise. C'est de montrer aux jeunes des quartiers qu'ils sont légitimes et capables de s'approprier le débat démocratique, parce qu'on part du constat que... Il n'y a pas besoin d'avoir fait telles études, un parcours hyper scolaire pour s'approprier le débat public. Et l'idée, c'est de dire aux jeunes, en fait, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça nous concerne. Donc, il faut absolument qu'on évolue au chapitre. Et pour le montrer aux jeunes, on fait des simulations parlementaires, des visites d'institutions et tout ce qui permet aux jeunes de se saisir tous les sujets de société, dont les enjeux écologiques.
Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi votre programme La Cité à voter, c'est quoi ?
Je suis très contente que vous posiez la question. La Cité à voter, c'est une action qu'on fait en année d'élection. Et là, il y a les élections municipales qui arrivent, donc c'est le retour de la Cité à voter. L'enjeu, il est triple. Le premier, c'est d'encourager l'inscription sur les listes électorales. Le second, de vulgariser les enjeux de l'élection, parce que bon, selon l'échelon, les présidentielles, encore, on voit à quoi il nous sert, etc. Mais quand il y a des élections régionales, départementales ou d'autres échelons de ce type, c'est beaucoup plus difficile de s'en saisir. Et pour les municipales, l'enjeu, c'est de permettre aux jeunes de formuler des revendications pour leur territoire et que les candidats à l'élection et le maire sortant s'en saisissent pour que les revendications des jeunes soient portées et entendues.
Et on rappelle effectivement que l'année prochaine, c'est les élections municipales. Donc une initiative à suivre qui s'appelle La Cité à voter. Moussa, on le disait, tu es membre de l'association Espoir Jeunes. C'est une association qui a été fondée en 2010. C'est une association qui fait quoi ?
En gros, c'est une association qui fait de la sensibilisation pour plusieurs causes, notamment les addictions de toutes sortes, et aussi à l'environnement, qui aide à la formation. Par exemple, un des derniers projets qu'a mis en place l'association, ça a été d'emmener des jeunes membres de l'association au Sénégal pour distribuer notamment des fournitures scolaires. Et voilà.
Trop bien. Et bah bravo Moussa. J'ai vu que vous aviez 4 pôles. C'est quoi vos 4 pôles ?
Alors, je ne sais plus exactement en tête, mais c'est formation, prévention aux addictions, sensibilisation à l'environnement.
Et éducation.
Comment ?
Éducation le dernier. Ouais.
C'est ça.
Formation avec éducation. Ok, c'est impressionnant, mais il y a combien de personnes dans cette association ?
Ah, j'ai pas le nombre exact en tête. Je pourrais pas vous le dire comme ça.
Non, mais c'est pas grave.
J'ai pas de chiffre précis, donc je veux pas dire n'importe quoi.
C'est pas grave. Greazi Abira, tu es directeur national de Graines d'Orateur 93. C'est une association implantée en Seine-Saint-Denis qui œuvre depuis plusieurs années pour développer la prise de parole des jeunes, notamment à travers l'éloquence. Vous organisez des ateliers dans les collèges, c'est ça ?
Ouais, collège, lycée, des fois aller avec les primaires aussi. Mais ajouter...
Vas-y.
La finalité, c'est pas de faire que les jeunes puissent être des Cicérons et des Quintiliens, mais c'est plutôt que de faire en sorte qu'à travers la prise de parole, ils puissent se l'approprier, combattre l'autocensure, et ensuite qu'ils puissent être aptes à se défendre dans leur vie, à porter leurs revendications, et à se sentir, un peu comme l'a dit Awefa, légitime de prendre la parole et d'exister dans l'espace public. Donc en fait, bien plus que de simples joutes oratoires, l'idée c'est vraiment de faire de la prise de parole un catalyseur de réussite et d'engagement.
Il y a un lien commun entre tous les trois, c'est que vous prenez à corps un, vous prenez à corps un sujet qui s'appelle éduquer et se former collectivement pour lutter, justement sur l'écologie notamment. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Est-ce qu'on peut parler de la transition écologique? Est-ce que c'est possible de parler de transition écologique quand on a, quand on n'a pas accès à un logement digne, à la climatisation ou à un parc près de chez soi? C'est une vraie question, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Grady?
Bah, pour répondre, oui. Donc moi, dans cette optique-là, je vais pas être le représentant de la jeunesse, mais plutôt dire ce que moi je vois.
Ouais, dis-nous, dis-nous.
Auprès
ouais.
des jeunes et ce qu'ils nous disent lorsqu'on fait des ateliers avec eux. Nous, on aime bien faire des débats. On kiffe ça. Et pour prendre un exemple, on va se dire, faudrait-il, je sais pas moi, légaliser le cannabis. Ouais. Et en fait, on assigne les positions avec les jeunes dans le but qu'ils puissent débattre. Et on a déjà fait des débats autour de l'écologie. Et un des messages qui revient souvent, c'est que les jeunes ont deux impressions de ce qu'ils nous disent et des jeunes qu'on côtoie. La première, c'est que c'est un sujet, des fois, dont ils ont l'impression qu'il est très technique, donc assez éloigné d'eux. Ils comprennent pas toujours. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi l'impression que c'est un truc qui n'est pas pour eux, mais au sens sociologique du terme. Dans le sens où, effectivement, eux, ils ont d'autres réalités. Quand on n'a pas accès à un logement digne, quand on n'a pas accès, si je peux, des fois, à des espaces verts, quand on n'a pas accès à certaines écoles, etc., bah, c'est vrai que des fois, si je peux dire, les questions de transition écologique et énergétique passent au second plan. Même si, il y a quand même un truc qui est important, c'est que c'est, sans le savoir, c'est les premiers qui les appliquent. Parce qu'en fait, bah, quand on n'a pas d'argent, bah, en fait, votre daronne, elle vous dit l'électricité, ça coûte cher. Et donc, en fait, vous prenez les réflexes de faire attention à cela. Mais ce n'est pas forcément toujours conscientisé.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garantir un droit à la fraîcheur, toi qui travailles justement avec des jeunes qui élaborent des propositions à destination des élus, Christiane?
Alors là, je ne vais pas parler de quelque chose qui vient des ateliers avec les jeunes, parce que je crois que ce sujet, on ne l'a jamais creusé. Mais en termes de quotidien vécu, je pense qu'il y a des choses très bêtes auxquelles on ne pense pas forcément. Mais je ne sais pas, dans des périodes comme ça où il fait hyper chaud, quand, je ne sais pas, tu attends ton bus pour venir ici et qu'il y a des espaces où tu attends ton bus et il n'y a pas d'abri autour, que ce soit en hiver ou quand il fait chaud comme ça, surtout pour des personnes âgées ou même pour les jeunes de manière générale, c'est des types d'aménagement urbain comme ça qui, je pense, ont un impact sur la manière dont on vit ces vagues de chaleur-là. Mais je voulais juste répondre un petit peu sur ce que tu as dit. Moi, d'un point de vue personnel aussi, je me rappelle qu'on était en terminale, il y avait beaucoup de manifestations, la génération climat, tous les vendredis, elle allait monter sur Paris et faire des manifs, etc. Et moi, franchement, c'était le cas des mes soucis. Enfin, je me sentais archi pas concernée parce que j'étais en mode plus tard la planète, enfin, plus tard l'écologie, on s'occupera de ça après. Mais effectivement, nous, quand on fait les simulations parlementaires, on se rend compte que contre, on réfléchit sur la question de la gratuité des transports, l'interdiction des jets privés, etc. Si on ne les enferme pas dans des considérations techniques et qu'on n'est plus sur des enjeux de justice climatique, de justice sociale, ils arrivent totalement à s'approprier les sujets. En fait, pour eux, c'est de l'expérience vécue, c'est des inégalités qu'ils ressentent et qui parfois sont dans les tripes, quoi. Donc oui, quand on est sur des considérations politiques, on arrive à les mobiliser.
Moussa, est-ce que tu dirais que les jeunes de Seine-Saint-Denis ont la même marge de manœuvre que les autres ?
Non, c'est bien plus compliqué d'avoir les mêmes marges de manœuvre de personnes qui disposent d'un capital culturel et d'un capital économique tout à fait différent. Par exemple, si vous avez des problèmes avec la température ambiante, les personnes de classe supérieure, les personnes qui ont de l'argent... totalement aller dans d'autres endroits pour aller auprès de la mer, etc., pour s'hydrater, alors que quand on est issu de classe populaire, nos parents ont forcément moins les moyens, et du coup, on subit un peu plus, enfin, on subit plus que les autres concrètement, l'augmentation de la température et toutes les problématiques qui vont avec, pour le coup. Donc, voilà. Et juste pour rebondir ce que les deux camarades disaient, en tout cas, c'est mon ressenti. Au sein des classes populaires, on a vraiment un ancrage très terre-à-terre vis-à-vis de l'environnement. Ça va être toute la proximité. Typiquement, l'environnement, ça va englober la saleté publique, comment on gère les déchets, etc. Et ça, pour le coup, ça parle directement aux habitants des quartiers populaires, ce qui est bien plus difficile à comprendre pour nous, notamment quand on était assez jeunes. C'est le problème climatique, c'est un problème global, donc on a du mal à se dire comment est-ce qu'on pourrait agir de manière plus systémique sur ces enjeux-là.
Comment vous décririez la manière qu'ont les jeunes de s'engager sur la question écologique ? Est-ce qu'il y a une spécificité jeune dans l'engagement ? Vas-y, Moussa.
Non, vas-y, si tu veux. Je pense qu'il y a beaucoup de lassitude, notamment à travers le fait qu'on peut considérer comme une hypocrisie, mais qui est une réalité, hein. Dans le sens où on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des efforts au niveau individuel. Enfin, finalement, c'est une vision très libérale de l'écologie, que ça passe par des petits gestes, etc. Mais quand dans les médias, on voit passer, par exemple, la pollution de M. Bernard Arnault, ça crée directement un froid. Comment est-ce que nous, on peut réussir à avoir un contrepoids à un tel niveau de pollution, alors que nous, on a l'impression de beaucoup moins polluer que... Enfin, c'est une réalité aussi.
Christiane ?
Je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a un problème aussi, c'est qu'on dépolitise beaucoup les enjeux écologiques. Et un truc que moi, je trouve très intéressant, qui est en train de se passer en Seine-Saint-Denis en ce moment, qui est porté par l'asso Ça Bouge Grave, qui vont emmener des jeunes... à la COP30 à Belém. En fait, moi, je trouve que c'est très intéressant, d'une part, pour qu'ils puissent formuler des propositions, mais aussi pour qu'ils aient en tête que derrière toutes ces injonctions un peu à chacun faire ses petits gestes et tout, il y a des choses qui nous dépassent aussi et qui sont plus grandes que nous. Et qu'en fait, derrière le traitement de la cause climatique, il y a aussi des considérations politiques, économiques, en termes de négociations entre les États. Et je pense qu'il faut remettre aussi de la politique au cœur des enjeux écologiques pour que l'impuissance elle soit moins forte chez les jeunes.
Gréazi, toi, tu trouves qu'il y a un sentiment de gap générationnel sur ces sujets-là ?
Ouais, quand même, parce que déjà, il y a une fougue dans la jeunesse. Et ils ont parfois l'impression de ne pas être complètement entendus parce qu'eux sont prêts à porter des actions qui peuvent parfois, déranger les plus grands et leurs aînés. Et donc, ça peut être un peu compliqué pour eux, dans le sens où, on va dire que tu parlais de... Est-ce qu'il y a une méthode spécifique à la jeunesse ? Je ne pense pas qu'il y en a une, mais il y a quand même l'idée, j'ai l'impression, chez les jeunes, de vouloir avoir des actions plus coup de poing, des fois un peu plus rentre-dedans pour essayer de...
Ou alors de la débrouille aussi.
De la débrouille,
seconde main, par exemple.
Exactement. Et c'est des choses qui sont, je pense, pas portées par leurs aînés. Et donc, il y a une forme de gap et des fois une forme d'incompréhension. Et ce qui est un peu dommage, parce que comme justement le problème il est systémique et global, et collectif surtout, les jeunes ont l'impression d'avoir leurs aînés qui ne les comprennent pas, et les aînés ont l'impression d'avoir une jeunesse qui est arrogante. Et donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à les créer à ce niveau-là, dans l'intergénérationnel, et pour essayer de combler ce gap.
Est-ce que vous avez l'impression que les institutions entendent cette génération ? Est-ce qu'elle a à dire ? Christiane, je te sens pas convaincue.
Non, mais après, le département, il fait des concertations. Donc voilà, département 9-3, ça va. Mais de manière globale, en fait, nous, quand on va parler avec les jeunes, on va leur dire, en fait, il faut s'intéresser à la politique, sinon elle va s'occuper de nous de manière globale. Et je pense qu'eux, ils l'ont saisi. Et sur les enjeux climatiques, je pense que, voilà, il y a toute cette débrouillardise, toute cette créativité chez les jeunes, notamment des quartiers. En fait, on fait beaucoup avec pas grand-chose. Et en fait, de l'autre côté, je pense que les institutions, de manière générale, à tous les échelons, doivent prendre aussi leurs responsabilités. Parce que oui, si l'innovation vient du bas, à un moment donné, pour passer les choses à l'échelle, pour les soutenir et pour les pérenniser, il faut qu'il y ait des institutions derrière qui donnent des outils, qui mettent l'argent. Sinon, avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrivera pas. Et aussi sur l'aspect de la participation des jeunes, oui, les solutions, elles émanent du bas, mais quand on veut les passer à l'échelle, il faut les construire avec les jeunes, parce que si on n'embarque pas tout le monde, on va se retrouver avec des décisions qui sont prises, et nous, on n'est pas en mesure de les supporter en raison de notre classe sociale ou de plein de caractéristiques qu'on peut avoir. Donc oui, des initiatives qui viennent du bas, mais toujours à construire avec les jeunes,
Ouais, allez-y, vas-y.
Oui, non, le problème des initiatives qui viennent du bas, c'est aussi toute la construction des politiques publiques du début des années 2000, c'est-à-dire essayer d'individualiser les pratiques environnementales, donc remettre un peu la faute sur les individus tout en bas, que ce soit dans les quartiers populaires ou même dans les quartiers bourgeois, on va dire, alors que ce qu'il faut, c'est des politiques vraiment, vraiment systémiques, Et ça, la jeunesse le crie, mais les politiques ne l'entendent pas.
Moi, je dirais qu'il y a aussi une question de... Comme je parlais de gap, donc il y a une question de forme un peu. Le discours qui est porté par les jeunes, des fois, ne correspond pas à la forme attendue dans l'espace public et pour mettre en place des politiques publiques.
T'as un exemple ?
Pour donner un exemple, une action qui a été portée par notamment une asso qui s'appelle Banlieue Climat.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, ils ont fait un peu une action coup de poing en allant sur le fronton de l'Assemblée nationale, etc. Et en fait, ça, en termes de forme, ça peut être considéré comme violent ou impertinent, etc. Et donc pas nécessairement écouté. Et donc parfois se développe aussi une forme d'autocensure. Mais ça, c'est sur plein de sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Grendo, on travaille un peu sur cette idée. Enfin, que la prise de parole puisse servir ensuite à pouvoir porter des revendications pour être entendu, parce que comme quand on était à l'école, on nous expliquait le fond et la forme, et moi j'étais quelqu'un qui n'aimait pas ça, et j'ai été giflé par le fait que tout simplement j'avais pas des bonnes notes, quoi, même si le fond était plutôt bien. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler avec les jeunes, de pouvoir dire qu'il y a un cadre à porter ou à avoir pour justement porter ces revendications-là.
Justement, travailler avec les jeunes, et ce n'est pas toujours évident de faire émerger de la part des jeunes des propositions. C'est quoi les thématiques ? Par les thématiques, non, mais sur la question écologique, c'est quoi les premières propositions qui sont faites par les jeunes ? Les plus importantes, celles qui sont les plus poussées, celles qu'on attend le moins ?
Qu'on attend le moins, je ne sais pas.
Ouais.
Mais du moins, avec ce qu'on fait, nous, avec les jeunes, donc quand ils portent des propositions, quand on fait des débats, etc., nous, on intervient beaucoup en milieu populaire et quartier populaire. Donc, il y a souvent quand même la question économique qui revient. Ils ont l'impression qu'ils pourraient faire plus si ils avaient les moyens économiques de leur action, sans savoir que, entre guillemets, leur précarité est une forme de sobriété qui est déjà, du coup, un geste... si je peux dire, un geste écologique, et qu'ils font, en plus, eux, collectivement, et pas juste à titre individuel. Donc, il y a ces questions-là, sur le plan monétaire, reviennent, et donc, et parce qu'ils ont aussi l'impression que l'argent est gratuit, c'est logique, mais il y a cette idée de pouvoir faire un peu des chèques énergie revisités, etc., qui est souvent porté.
Moussa ? T'en penses quoi ? C'est quoi les priorités ? Et c'est quoi les lignes rouges aussi ?
Les lignes rouges, c'est-à-dire par rapport à ce que les jeunes considèrent comme une ligne à ne pas franchir ?
Ouais. S'il fallait changer quelque chose demain matin et qu'on laissait les clés aux jeunes avec lesquels vous bossez, vous ?
Disons qu'il y aurait plein de thématiques. Il y aurait énormément de thématiques à travailler. On peut penser notamment aux vacances. Comment est-ce qu'on peut concilier une envie de vacances avec tout le côté symbolique qu'il y a derrière et l'environnement ? Comment est-ce qu'on peut réussir à concilier les deux ? Moi personnellement, là, je vois que ça.
Christiane ?
Moi, en termes de ligne rouge, je dirais... je pense que le truc à pas franchir, c'est d'avoir une transition éco qui, en fait, laisse plein de gens derrière. Et en fait, y a des mesures qui sont décidées et en fait juste toi dans ton quotidien avec ce qu'il y a dans ton porte-monnaie, t'es pas en mesure de le faire. On nous parle de il faut changer de voiture, il faut rénover son logement pour le faire rentrer dans une catégorie qui soit plus écologique, etc. En fait, s'il n'y a pas les fonds, s'il n'y a pas le soutien derrière, et si en fait on n'explique pas aux gens pourquoi on doit tendre vers tout ça, je pense qu'on abandonne plein de personnes et c'est une transition qui ne serait pas réussie si elle n'est pas en fait sociale finalement.
Est-ce que vous pensez que la transition écologique doit seulement venir des institutions, des collectivités, de l'État, etc. ou est-ce qu'on peut y contribuer aussi directement ?
Je dirais qu'au contraire, on doit tous y contribuer. Si elle ne vient que des institutions, c'est quelque chose qui va être un peu, si je peux dire, dommage, voire dommageable, dans le sens où ils ne se trompent pas toujours là-dessus, que ce soit les jeunes ou même les personnes qui habitent en Seine-Saint-Denis. Des fois, elles ont l'impression de ne pas pouvoir être facilement en contact avec les institutions et que, en fait, l'institution peut parfois représenter un danger. Et donc, ce n'est pas naturellement qu'on se porte vers elle. Et d'un autre côté, quand on est en institution, ben en fait, on dépend aussi d'une hiérarchie, et etc. Et c'est pas toujours facile de pouvoir être en lien concret et, si je peux dire, quasi permanent avec les populations et, les, si je peux dire comme ça, les administrés. Et donc, ça serait dommageable. D'autant plus que ce que je vois, c'est que c'est aussi un prétexte pour certains jeunes de ne pas porter la question dans le sens où ils ont l'impression d'être mis de côté par les institutions. Et donc, un peu pour leur dire, bah là, vous avez plus, y a plus d'excuses. Et au contraire, il faut pouvoir les impliquer pour pouvoir mettre en place des solutions qui sont correctes pour eux. Parce que ça arrive souvent, et on a des fois des retours. Bon, là, c'est pas tellement les jeunes, parce qu'ils ont le moins conscience, mais les plus adultes, les mamans, etc., quand on va parler de rénovation urbaine, par exemple, dans un quartier, bah, des fois, la rénovation urbaine est portée d'une manière et qui ne correspond pas au désir des habitants. Pour donner un exemple hyper bête et concret, ça va être, on va changer... on va mettre un espace vert en plein milieu d'une voie qui permettait d'aller à l'école plus facilement. Et donc, ils ont l'impression de se dire, ah ben ouais, ok, on met des fleurs, mais on s'en fout des fleurs, on veut emmener nos enfants un peu à l'école. Donc, c'est en ça que je pense que c'est très important qu'il y ait une connexion institution-population et que ce gap puisse être un peu franchi. Mais en revanche, je pense que c'est aux institutions d'aller vers les populations pour faire ce travail-là.
Et...
Vas-y, Moussa. Et
oui, justement, moi je suis totalement d'accord. Là, par exemple, on a parlé des élections municipales tout à l'heure. Typiquement, là, les personnes issues de classe populaire ou les personnes qui vivent dans le 93, ils peuvent s'emparer de la question environnementale en s'auto-organisant, préparant des listes ou en mettant tout simplement la pression sur les décideurs politiques pour mettre en avant les problématiques environnementales qu'ils ont, eux, à faire sur le terrain. Ils se confrontent à des problématiques que les décideurs, les institutions ne voient pas forcément et que ceux qui sont sur le terrain le voient. Et par conséquent, les élections municipales, là, pour l'année prochaine, hein, du coup, ou législatives, on ne sait jamais, et bah, c'est un moyen de s'emparer des institutions. C'est un moyen pour les citoyens de s'emparer des institutions et de, d'aborder une dynamique environnementale près des...
Non, vas-y.
Près des gens, tout simplement, ouais. Des citoyens.
Christiane.
Je partage totalement tout ce que vous avez dit, d'autant plus que, enfin, moi, je trouve que c'est hyper important que la jonction des deux espaces. Enfin, moi, je viens de découvrir un truc. Je pense que ça date, que ça se fait, mais j'étais émerveillée par ça. Enfin, typiquement, si on prend genre le concept des jardins partagés, et en fait, ça a l'air un peu tout bête comme ça d'avoir un jardin où les gens viennent, ils cultivent des trucs, etc. Mais derrière tout ça, tu arrives à prendre à bras-le-corps des problèmes qui concernent l'emploi, ça crée de l'emploi, la précarité alimentaire, ça permet aux gens d'avoir des habitudes alimentaires qui sont plus adéquates pour avoir un bon niveau de santé, ça permet d'agir sur le lien social, ça permet d'avoir des enfants qui viennent faire des activités, ça permet de les occuper, etc. Donc en fait, avec des initiatives portées par les habitants qui sont hyper concrètes, des choses du quotidien, si on a un soutien des institutions qui vient par derrière, on arrive à lever des freins qui sont sur plusieurs domaines finalement. Donc je trouve que le lien est hyper important effectivement.
Et le lien est tout trouvé du coup avec ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à s'organiser pour aller dans toutes ces directions ? Comment ? C'est quoi l'orga ? C'est quoi le meilleur moyen ? Il faut rejoindre les partis, les syndicats, les assos, les trois en même temps ?
Bah ouais, moi je dirais les trois en même temps. Il faut tout rejoindre. Faut être partout, faut tout coloniser, si je peux dire. Et je pense qu'il faut le faire dans le sens où, non pas dans une idée de maintenir ce gap un peu avec « ah ouais, les vieux » ou « ah les anciens », etc. Sachant que bah, j'avertis les jeunes qu'on est, très vite l'ancien de quelqu'un.
Oui.
Moi, à 17 ans, je pensais qu'à 23, voilà, on était plus jeunes, etc. Là, j'en ai bientôt 30. Et je suis choqué qu'on m'appelle monsieur des fois dans la rue. Donc ça va assez vite. Mais en fait, pour répondre à la question, je pense qu'il faut tout rejoindre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? Il y a, je pense, deux choses. Il y a un côté sensibilisation. Et en fait, je pense que cette sensibilisation doit être portée par des acteurs du territoire ou des acteurs qui vivent dans le territoire pour que ça passe par des images concrètes. Je donne un exemple. une fois, j'ai vu une action portée et en fait, on parlait de l'éco-anxiété chez les jeunes.
Ouais.
Mais dites ça à des jeunes d'Aubervilliers, ils vous rigolonnez en fait. Pourquoi vouloir parler d'éco-anxiété? Vous croyez que, oh là là, chaque jour ils se réveillent et ils sont stressés, oh mince, oh, oh là là, mon avenir, à cause de ça? Mais pas du tout, ça n'en parle pas. Alors qu'au contraire, quand on leur dit, bah, vous savez que quand vous allez au grec et que la viande, elle est fabriquée avec telle quantité d'eau, etc., et qu'en fait ça pollue parce qu'après vous, ça peut vous entraîner déjà, y a des problèmes de sanitaires. Sur la santé et que l'eau que vous utilisez bientôt peut-être.
Je veux dire qu'il faut être plus concernant.
Exactement. En fait, faut aller directement sur leur sujet. Et la dernière chose pour finir sur ça et éviter d'être long, c'est que je pense qu'il faut être capable de les mettre en capacité. Et donc, dans cette mise en capacité, en fait, c'est aussi à tous les acteurs. Donc les assos, les institutions, les partis politiques, les syndicats, les écoles, etc., voire même un travail avec les parents, de donner une forme de légitimité à la parole des jeunes. Ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Donc en fait, il faudrait changer cette idée-là.
Moussa, pour le mot de la fin.
Oula, grosse responsabilité.
Non, mais t'inquiète, il y aura Christiane après toi.
Ok. Non, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, surtout et aussi demander aux jeunes d'investir les syndicats, parce que la pollution, elle se fait surtout dans le monde du travail, et aussi s'investir dans les partis politiques, parce que c'est là que sont les organes de décision, c'est dans la production et dans les appareils de partis pour le coup. On a vraiment une pierre à apporter qui est non négligeable par rapport aux personnes qui sont plus âgées, on va le dire comme ça.
Christiane,
comment
on fait pour s'organiser?
De plus intéressant à rajouter, enfin, je partage totalement vos conclusions, mais oui, effectivement, c'est d'une part que les institutions fassent leur travail et qu'elles aillent vers les citoyens, qu'elles soutiennent les initiatives qui sont portées, qu'on délégitime pas ce qui est porté par la jeunesse, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est aussi un âge où on est en laboratoire, on expérimente plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui vont pas fonctionner, mais l'idée, c'est d'accompagner toutes ces idées de transformation et je sais pas, peut-être que dans le 9-3, là, il y a des jeunes qui, en fait, vont trouver la solution qui va permettre de faire aboutir cette transition écologique-là. Donc, vraiment, soutenir les expérimentations, je pense que c'est hyper important.
Et un immense merci à Christiane, Moussa et Gréhadzi, que vous pouvez applaudir très fort. Merci, les amis, d'être venus sur ce plateau. Je vous laisse quitter le plateau. On va continuer cette émission, chers amis. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du parc Georges Valbon, le parc départemental Georges Valbon, dans cette émission en partenariat avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Nous abordons la question de l'écologie et de la jeunesse et nous allons accueillir sur ce plateau, cette fois-ci, l'heure est venue à la carte blanche. C'est parti avec Sarah Maria Amou. On va maintenant laisser place à la carte blanche de cet après-midi. L'idée, c'est de donner la parole à une association du territoire particulièrement active et engagée sur la thématique de l'écologie et des injustices climatiques. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sarah Maria Amou de l'association Get Up. Salut Sarah.
Ça marche ?
Ouais, ça marche.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, très très bien.
Merci d'être avec moi sur ce plateau. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur l'association que tu représentes qui s'appelle Get Up ?
Je sais pas si je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus. La guêpe a continué de tourner autour de moi, mais je vais essayer d'être concentrée. Get Up, c'est une organisation née en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Stein, qui a bientôt 10 ans d'ailleurs. Et on œuvre pour davantage de justice sociale dans les quartiers populaires et pour valoriser toutes les formes d'engagement chez les jeunes de quartiers populaires.
Trop bien. Vous êtes principalement présent sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, c'est ça ?
C'est ça, ouais. On a un pôle éducation qui travaille beaucoup avec les établissements type collège, lycée, donc ça va principalement être 93-95 aussi un peu. Et puis, avec le pôle recherche et le pôle média, on sillonne un peu toute l'île de France. On va là où on est invité, partout en France. On était au Maroc, là, il y a 2 mois. On sera bientôt au Brésil, donc on est là où on nous invite.
Trop bien, non mais je vois ça. Dans quelle ville, précisément, on peut vous retrouver en Seine-Saint-Denis ?
Y a Saint-Denis déjà, il me semble que Villetaneuse, Stein, La Courneuve. Je regarde ma collègue du pôle éducation qui s'occupe des ateliers, des rencontres avec les jeunes, mais vous pouvez aussi venir nous voir directement au SAS, okay. À Saint-Denis.
Alors avant de te laisser nous en dire un petit peu plus sur le rapport Injustice Climatique produit par GetUp, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui souhaitent vous rejoindre, comment on fait ?
Alors à chaque rentrée, on organise une sorte de rentrée bénévole. Donc déjà, vous pouvez nous suivre sur Insta pour voir quand est-ce qu'aura lieu cette rentrée. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer un petit DM sur Insta. Selon les projets que vous voulez porter, parce qu'on veut aussi accompagner les jeunes dans leurs propres projets. Donc si jamais il y en a qui veulent faire de la recherche, de l'éducation, ils peuvent nous en parler, on voit comment on les accompagne. Et ouais, nous envoyer des petits DM sur Insta, ça marche très bien.
Le DM Insta, ça marche très bien. Et bien écoute, c'est noté, merci beaucoup ma chère Sarah, je te donne 10 minutes, c'est ta carte blanche.
Wow,
tu as tout le temps devant toi, je t'en prie, c'est à toi.
Et bien moi je suis venue pour vous parler du rapport Injustice Climatique qu'on a commencé il y a maintenant presque 2 ans et demi. Et je tiens juste à dire que je suis très très contente que mes collègues de Grendo et des autres orgas soient passés juste avant, parce que ça va complètement faire écho et confirmer ce que vous avez pu dire et ce que vous avez pu observer sur le terrain. Ce rapport, il n'aurait pas existé si ce n'était pas pour les jeunes. En gros, de base, on travaillait sur un autre rapport, sur l'engagement. Et lorsqu'on menait les entretiens, les jeunes, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais ils arrivaient à parler de réchauffement climatique, d'éco-anxiété parfois, d'insalubrité, de plein de thématiques qui sont liées au changement climatique, alors même que ce n'était pas du tout orienté sur ces questions-là. Et donc, de par leur intérêt pour le sujet, et en plus le momentum où on était, qui est où sont les jeunes de quartier populaire lorsqu'on parle d'écologie, on s'est dit qu'on était pleinement légitime et que c'était notre moment d'écrire un rapport à part entière là-dessus. Donc voilà, ça a pris un peu plus de 2 ans et demi. On a travaillé avec Ipsos, avec une chercheuse du GIEC qui s'appelle Yamina Saeb. Tout le long, on était accompagné par un comité d'experts, donc plus légitime et carré que ça, on peut faire difficilement. Et puis surtout, ça a été une question, mais on l'a d'abord écrit avec les jeunes et pour les jeunes. Ce rapport, il se compose en 3 parties. La première, c'est un peu pour expliquer comment est-ce que les quartiers populaires sont impactés de manière différenciée par le changement climatique. Parce qu'on ne le sait pas tous forcément, mais c'est factuel. Aujourd'hui, les quartiers populaires en France sont les premières victimes du réchauffement climatique. On a des chiffres, c'est factuel. Malheureusement, on ne peut plus le nier. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Nous, on le savait déjà, en tout cas, les premiers concernés. Et donc, on a un peu théorisé ce qu'on appelle les 4 principes de la discrimination environnementale, des inégalités environnementales. Et s'il y en a qui habitent en quartier aujourd'hui, j'en doute pas du tout, je pense que ça va vous parler. Ce premier principe, c'est les inégalités d'exposition aux pollutions et aux nuisances. Très simplement, c'est quoi ? C'est que si tu habites en quartier populaire aujourd'hui en Ile-de-France ou dans le 9-3, bah forcément, tu auras une infrastructure routière, des autoroutes, le périph', des nuisances sonores avec le RER, pour certains même la proximité des aéroports, que ce soit Charles de Gaulle ou Orly, qui sont des nuisances et dont on ne se rend pas forcément compte des impacts. Et ça m'amène à mon 2e point, c'est par rapport à la santé. Tu ne sais pas forcément quels sont les impacts de tout ça. Et une fois que tu es au courant des impacts et que tu veux accéder à des soins, à l'hôpital, à des spécialistes, ben, tu ne peux pas forcément. Il me semble que, je ne sais pas si mes chiffres sont à jour, mais la Seine-Saint-Denis, c'est le 4e contributeur à la sécurité sociale en France et c'est le premier désert médical. 92,8% du territoire, il me semble, est insuffisamment couvert en infrastructures, en spécialistes. Ce qui nous laisse, ben, face à l'autogestion un peu de ces problèmes, on se dit, OK, on ne peut pas avoir accès aux soins, et ben, on va essayer de se soigner par nous-mêmes. Et là, on arrive sur les inégalités d'accès aux espaces verts, à une alimentation saine, toutes ces choses-là qui nous permettraient d'aller mieux dans notre environnement, dans notre quotidien, sans avoir forcément besoin de passer par les médecins. Et pourtant, même ça, c'est difficile d'y avoir accès. Et donc, une fois qu'on se rend compte un peu de tout ça, on se dit « Ok, je suis saoulée, donc j'aimerais m'engager sur ces questions, faire monter mes revendications et faire en sorte d'avoir accès à toutes ces choses-là. » Et là, c'est le dernier frein, le dernier palier, ce sont les inégalités d'accès à l'engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que les formes d'engagement des habitants de quartiers populaires, notamment en lien avec l'écologie, elles sont pas forcément valorisées. Parce que l'écologie mainstream telle qu'elle est construite aujourd'hui, ça va valoriser les manifestations, les sit-ins, les pétitions, aller parfois les jardins partagés. Alors que les mobilisations dans les quartiers populaires, ça va être sur des vrais sujets comme le logement, comme la santé, comme les bus qui passent pas à des heures décentes pour les parents qui doivent aller travailler à 5 heures du matin, les mobilisations contre le racisme, l'islamophobie. Et en fait, tout ça, c'est des sujets. Si les organisations climat, si la manière dont le mouvement climatique est construit aujourd'hui ne se penche pas dessus, et ben, tout simplement, l'écologie continuera d'être inaudible pour une immense partie de la population française. Et De fait, ce rapport, on l'a construit d'abord pour les jeunes, un peu pour célébrer et pour valoriser toutes les pratiques d'engagement qui existent. On leur a posé la question, c'est quoi le sujet sur lequel vous vous engagez le plus dans votre quartier ? La première réponse, c'était l'humanitaire. La deuxième, c'était l'éducation. Et je crois que c'était en huitième position, c'était le changement climatique. Pas étonné. Puis quand on discutait avec eux, on leur a demandé, ok, mais quand tu fais de l'humanitaire, tu fais quoi ? Tu vas où ? Avec qui tu travailles ? Et à chaque fois, c'était les mêmes réponses. C'était, on va là-bas pour planter des arbres, pour forer des puits, pour faire de l'agroécologie, pour nettoyer les plages. En fait, tout ça, c'est des pratiques qui sont intrinsèquement écologiques, mais qui sont plus valorisées quand ils ne le font pas chez eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment d'identification auprès de ces personnes-là, comme celles qui ne polluent pas, mais qui subissent le plus, un peu comme nous, finalement. Et puis aussi parce qu'on ne leur met pas de bâton dans cet engagement. Donc ça, c'est la première partie. Disons un peu la seconde cible pour laquelle on a écrit ce rapport, c'est pour les orgas climat, c'est pour les institutions, c'est pour toutes les personnes aujourd'hui qui nous parlent d'écologie, mais qui nous posent encore la question, ok, vous, vous parlez d'écologie, mais les autres jeunes de quartier, ils sont où ? Et ce dont on s'est rendu compte, et c'est dingue, parce que d'un côté comme de l'autre, c'est un peu la même excuse, c'est la même réponse. Quand on leur demande, vous, pourquoi vous venez pas nous voir ? Ils nous répondent que c'est par rapport à la légitimité. Ils ne sont pas légitimes de venir parler aux habitants de quartiers populaires. Ils ne sont pas légitimes de prendre en considération le sujet. Ou sinon, parfois, il y a de la crainte. Il y a de la crainte parce que forcément, ça va devoir traiter des questions d'immigration, des questions de racisme, des questions plus institutionnelles qui s'éloignent peut-être un peu parfois du climat. Et donc, ce qu'on fait quand on les rencontre, parce qu'à date, aujourd'hui, on a rencontré un peu plus de 60 orgas, associations climat un peu partout en France, on inverse la question et c'est plutôt... Quand nos jeunes de quartier populaire, ils se mobilisent sur l'écologie, ils parlent d'écologie, où est-ce que vous êtes ? Et d'ailleurs, j'ai pas de chrono là, donc...
Non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'es dans les temps.
Super. Et puis, la troisième cible un peu, ça va être... la dernière raison pour laquelle on a écrit ce rapport, c'est davantage pour amener des solutions concrètes. En gros, comment est-ce qu'on se positionne sur l'écologie à l'intersection de nos propres luttes sans jamais mettre en arrière nos besoins qui sont sur le court terme ? Dans notre rapport, ce que les jeunes nous expliquent aussi, c'est que l'écologie, c'est perçu comme un problème sur le long terme. Pas parce qu'ils n'ont pas conscience des enjeux, au contraire, ils sont très conscients. Mais malheureusement, quand tu parles d'écologie, de changement climatique, de plus 1,2 degré, à des jeunes qui sont aujourd'hui en train de se battre pour pouvoir faire des courses, leurs parents qui se battent pour pouvoir garder un emploi, des jeunes femmes qui se voient devoir retirer leur voile à l'entrée du lycée, du collège, etc., si on ne les accompagne pas sur toutes ces questions-là, ils ne vont pas intérioriser que le sujet de l'écologie, c'est aussi un sujet sur le temps court. Et donc, c'est pour ça que nous, on met un peu quatre gros sujets en avant. Ça va être, j'espère que vous serez d'accord, ça va être le logement. Parce que tout commence dès le logement. On ne peut pas demander à un jeune d'aller loin dans ses études, de s'engager dans son quartier, de faire quoi que ce soit, si déjà dans le logement, c'est une passoire, une bouilloire thermique, qu'il y a de la moisissure, qui sont 7 dans une chambre. Tout ça, c'est pas possible et c'est pour ça qu'on les accompagne. D'ailleurs, on a sorti une note avec Oxfam le 1er juillet sur les bouilloires thermiques en Seine-Saint-Denis et comment c'est intrinsèquement lié au changement climatique, mais surtout qu'on est, là encore, malheureusement, les premiers concernés. Donc le logement, il y a aussi le sujet de la santé, évidemment. Puis, il y a le sujet des métiers de la transition. Un peu comme pour les autres métiers socialement valorisés, ils vont être davantage accessibles à une certaine classe sociale, à des jeunes qui vont dans certains lycées. Et c'est le même schéma qui se répète pour les métiers socialement valorisés de la transition. Je dis socialement valorisés parce qu'on a des orgas, il y a des gens qui essayent de venir voir les lycées dans les quartiers populaires pour leur dire qu'il faut qu'ils s'investissent dans les métiers du BTP vert, que c'est l'avenir, qu'il y a des choix à se faire, etc. Alors même que leurs parents... Ils ont travaillé dans le BTP et eux, ils ont vu leurs parents rentrer avec le dos cassé, un salaire assez médiocre, pas de reconnaissance sociale. Et aller voir ces jeunes-là aujourd'hui pour limite donner des injonctions à ce qu'ils rejoignent ces mêmes métiers, pareil, c'est pas audible. Et ça, pour s'en rendre compte, faut faire un vrai travail en profondeur avec les acteurs de quartier. Faut pouvoir accepter qu'eux aussi veulent leur part du gâteau et qu'ils n'y renonceront pas au nom du changement climatique. Et puis l'autre sujet aussi, c'est de ne pas faire l'économie des luttes contre le racisme, contre l'islamophobie, contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, quand on a une manif contre les violences policières et qu'à côté on a une manif pour le climat, bah, moi je trouve pas ça cohérent. Les deux devraient être reliés. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on va pas se soucier du climat si à côté on a des jeunes qui meurent. Et là, on parle de violence policière, mais bien entendu, il y a plein d'autres sujets, et c'est exactement ce qu'on essaie d'expliquer. C'est que être à l'intersection des luttes justice sociale et climatique, c'est pas facile, parce que ça nécessite de s'éloigner un peu quand même du sujet climat. Mais, et ça nécessite aussi de le faire sur le temps un peu plus long. Mais pour le coup, ça permet de construire des partenariats, des formes de travail qui sont davantage solides. Et en faisant ça, on rend vraiment audible le sujet du climat et de l'écologie auprès des jeunes qui sont pas vraiment... Enfin, ils sont pas réticents, quoi. C'est... Ok.
On arrive bientôt, t'inquiète.
Super. Bah, en tout cas, juste pour vous dire, ils sont pas réticents à ce sujet. Faut vraiment simplement savoir l'amener comme ils l'attendent. Et puis nous, on essaie vraiment de paver la voie pour tous ces jeunes qui aimeraient s'engager pour le climat. Déjà en faisant le travail auprès des orgas climat traditionnels, en leur expliquant qu'il faut être plus inclusif, mais aussi nous, en créant des espaces où ils peuvent travailler entre la justice sociale, sur le logement, sur l'alimentation, sur l'entrepreneuriat et sur le climat en même temps. Et merci à tous ceux qui sont passés juste avant, parce que c'est trop bien de pouvoir vous entendre sur les sujets qui nous concernent toutes et tous et qu'on puisse se rejoindre là-dessus.
Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah Maria Amou. Merci beaucoup. J'invite les invités suivants à venir nous rejoindre sur le plateau. Venez, chers amis, les élus. On va parler avec les élus. Sarah, tu restes avec nous. N'hésitez pas à aller lire le rapport dont vient de vous parler Sarah sur le site de GetUp, disponible directement sur Internet. Vous avez le lien dans le chat, chers amis.
C'est gratuit.
Et en plus, c'est gratos. Alors franchement, venez nous rejoindre, chers amis. Nous rejoindre sur ce plateau Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Oriane Filol, déléguée jeunesse et lutte contre les discriminations du conseil départemental. Sarah Maria Amou, qui reste avec nous de GetUp. Aminata Fadiga, qui est un jeune du département, qui est une jeune du département, excuse-moi. Et Inès Leclerc, jeune du département et membre de l'association Eloquentia. On va continuer à discuter tous ensemble. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je vous invite à vous saisir d'un micro. Stéphane Troussel, on va commencer par vous. Vous êtes président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis depuis 2012. On vous connaît notamment pour votre engagement en faveur de la mixité sociale, du logement et de l'égalité territoriale dans l'un des départements les plus jeunes et populaires de France, la Seine-Saint-Denis.
C'est bien ça.
Merci d'être avec nous, Stéphane Troussel. Oriane Filol, élu départemental, délégué à la jeunesse et à la lutte contre les discriminations et adjointe au maire de Saint-Denis. C'est quoi vos attributions exactement? Vous vous occupez de quoi?
Donc au département, je m'occupe de la lutte contre les discriminations et de la jeunesse. Et à la ville de Saint-Denis, je m'occupe des solidarités, de l'accès aux droits et de l'égalité femmes-hommes.
D'accord, ok. Ça fait beaucoup de choses, chapeau.
Je m'ennuie pas.
Non, j'imagine bien. Aminata, salut. Aminata, salut. Tu as grandi dans le département, tu es engagée notamment chez Cité des Chances, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais pas que. Tu es très active sur les sujets d'accès aux droits, de féminisme et d'égalité des chances.
Exactement.
Et ben, ça fait super plaisir. Et enfin, Inès Leclerc. Salut Inès.
Salut.
Merci d'être avec nous. Tu es membre de l'association Eloquentia, mais aussi passionnée par la littérature. Tu accordes une grande importance à la voix des jeunes. C'est pourquoi tu t'es entièrement investie en tant que présidente d'Eloquentia Saint-Denis, une association ayant pour mission de donner la parole aux jeunes dans toutes ses formes. Tu peux nous en parler un peu de cette association?
Ouais. Alors, au départ, c'est Stéphane de Freitas qui a créé cette association en 2012. Donc, ça fait bientôt plus de 10 ans que cette association, elle perdure. Nous, on est situés du coup, à Eloquentia, à Saint-Denis. C'est de là dont tout part. On donne la parole aux jeunes. On adore lorsqu'ils prennent la parole sur divers ateliers, l'improvisation, qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure, la rhétorique, la poésie, mais encore le slam. Et notre but, c'est vraiment d'aller au contact des jeunes pour leur donner aussi la parole, parce qu'en fait, on se rend compte que on n'a jamais pensé avoir autant de choses à dire que lorsqu'on commence à prendre la parole. Donc voilà.
Je le disais en introduction, cette émission, elle est dans le contexte d'une concertation jeunesse qui a été initiée par le département. Stéphane Troussel, Oriane Filol, pourquoi consulter les jeunes sur l'écologie? Oriane.
Alors, on consulte les jeunes sur l'écologie et on consulte les jeunes tout court sur plusieurs sujets. C'est dans le cadre d'une refonte de notre politique jeunesse. L'idée, c'est de réadapter nos politiques publiques aux jeunes d'aujourd'hui, aux préoccupations qui sont celles des jeunes d'aujourd'hui, aux besoins aussi qui sont ceux des jeunes, et en fonction de ce que nous, on est en capacité de faire le département. Pour les jeunes, c'est pas toujours évident de savoir ce que fait le département pour eux au quotidien, alors qu'on fait énormément de choses sur différents secteurs, sur l'éducation, sur l'écologie justement, sur l'emploi, sur l'insertion. Et on a besoin de mieux parler ensemble pour que nos engagements, nos investissements aillent là où il y en a besoin. Et là, on veut aussi consulter spécifiquement sur le sujet de l'écologie et de la justice climatique, parce que toutes celles et ceux qui ont parlé avant nous l'ont bien dit, c'est une des préoccupations des jeunes, parce que les jeunes sont souvent les premiers à s'engager aussi pour les luttes pour la justice climatique, et parce que les jeunes sont aussi les premiers concernés, les premiers impactés, parce que ce sont les adultes de demain, sont ceux qui vont vivre le plus longtemps avec ce dérèglement climatique, et qui vont non seulement essayer de réajuster tout ce qui a été mal fait pendant les dizaines d'années, les centaines d'années précédentes, et qui vont aussi devoir subir les conséquences, et donc adapter aussi notre mode de vie aujourd'hui. Harry expliquait bien tout à l'heure tout ce qu'on met en place au département pour faire en sorte qu'on vive mieux malgré le changement climatique, et tout ce qu'on met en place aussi pour éviter que ce changement soit trop catastrophique. Et donc on a besoin d'avoir aussi l'avis des jeunes, tant sur les solutions à mettre en place que sur eux, ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils aimeraient que l'on fasse mieux encore que ce que l'on fait aujourd'hui.
Stéphane Troustel, c'est une philosophie d'action politique, ça, la concertation avec les jeunes?
Oui, bon, Oriane a déjà presque tout dit. C'est aussi de se dire que finalement, face aux enjeux qui sont les nôtres, aux défis qui sont devant nous et qui nous concernent toutes et tous, en fait, il faut la mobilisation de la société. Et justement, compte tenu de ce qu'est le département de la Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, un département jeune, peut-être le plus jeune de France métropolitaine, un département populaire, un département avec aussi une très grande diversité d'histoires, de parcours. Et donc, oui, nous, on est persuadés que pour réussir, pour y compris faire face à des rapports de force dans la société, eh bien, on a besoin de la mobilisation du plus grand nombre. Il suffit pas que le président de la Seine-Saint-Denis, avec son élu à la jeunesse et à la discrimination, avec un élu chargé de l'écologie, se mobilise, fasse les meilleures propositions du monde, si elles sont pas portées, si elles sont pas, s'il n'y a pas la mobilisation de la société, des gens eux-mêmes, finalement, face à l'ampleur des défis, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, et les autres intervenants insistaient sur cette dimension-là, moi, je crois qu'on n'embarquera pas largement la société dans ce défi de la lutte contre le réchauffement climatique si on ne montre pas à quel point c'est aussi un enjeu de lutte contre les inégalités. Parce que la réalité, c'est que c'est ceux qui polluent le moins qui sont les plus victimes du réchauffement climatique, des épisodes climatiques extrêmes. Bien évidemment que quand on vit dans un appartement bien isolé, quand on peut se protéger, quand on peut aller se mettre au vert, au frais, c'est plus facile et ça concerne une catégorie de population et pas les autres. Et donc il faut absolument, y compris dans les décisions, dans les choix de politique publique qui sont à faire, il faut expliquer à quel point c'est aussi et peut-être principalement un sujet de lutte contre les inégalités. Et comme c'est un peu l'ADN de la Seine-Saint-Denis que d'être mobilisé contre les injustices et pour l'égalité, eh bien on a décidé aussi d'entrer dans ce débat-là en mobilisant la jeunesse et la société civile au travers de ce prisme-là de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les inégalités et finalement en ouvrant de nouvelles perspectives en termes de droit et d'accès au droit. Parce que c'est d'abord et avant tout comme ça qu'on pourra répondre aux défis qui sont devant nous.
Aminata, je le disais, tu as grandi dans le département, tu es aussi active dans une asso. C'est quoi ton point de vue sur la place des jeunes dans la transition écologique ?
Elle est fondamentale déjà. Parce que on va être les premiers à pâtir des conséquences néfastes de toutes les catastrophes causées par les anciens, comme disait Gréasi avant nous. Mais elle est... l'engagement des jeunes est aussi jonché d'obstacles, parce que quand on est jeune, on est illégitime. Et quand on est jeune et qu'on vient du 93 et qu'on est issu de quartier populaire, qu'on est racisé, qu'on est une femme, notre voix compte probablement moins. Et en plus, comme le disait Sarah Maria, quand on s'engage en dehors des institutions, quand les formes d'engagement qui sont valorisées dans notre environnement de naissance, dans l'environnement dans lequel on a grandi, sont celles de la solidarité concrète, des maraudes et pas forcément des jardins partagés, comme on le disait précédemment, l'illégitimité se fait lourde et les obstacles se font très très grands. Mais on voit des initiatives naître, et c'est aussi une grande chance et une grande particularité de la Seine-Saint-Denis, qui est que du fait de l'origine sociale des jeunes, les initiatives se multiplient de toutes formes, dans le monde associatif, à travers des collectifs, dans le monde politique, dans le monde syndical. Les jeunes sont partout, et c'est admirable parce que ça dépasse, à mes yeux, et surtout dans le cadre de la transition écologique et du changement climatique, ça dépasse totalement les classes sociales. Donc on s'engage les uns à côté des autres dans des actions de tout type et souvent intersectionnelles. Tu disais, Sarah Maria, que c'est extrêmement important et je suis absolument d'accord avec toi. Des actions qui touchent le logement, l'alimentation, l'éducation, etc. Et qui... prennent également en compte la question de la transition écologique.
Il y aurait énormément de sujets à aborder. Il y en a un qui me tient à cœur particulièrement et qu'on a tendance à mettre de côté quand on parle de transition, c'est l'alimentation. Sarah Maria, je sais que justement, dans le rapport produit par GetUp, c'est un sujet que vous abordez.
Ouais, totalement. On en a posé la question aux jeunes, c'est quoi la première discrimination environnementale que vous percevez à l'échelle du quartier? Et même nous, on a été très surpris de la réponse. 100% des jeunes nous ont répondu que l'alimentation saine, c'est la première discrimination qu'ils perçoivent. Et quand on leur a posé la question, alors c'est pas qu'ils aimeraient pouvoir manger des salades et des trucs hyper sains et du quinoa tous les jours, c'est juste qu'ils aimeraient avoir accès, avoir le choix en fait, pouvoir faire leur propre choix. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque dans les quartiers populaires, c'est cette offre, un peu plus varié d'alimentation, quoi, qui dépasse le grec qu'on adore. Franchement, on stream le grec, voilà, tous les trucs un peu pas super healthy, mais on aimerait aussi avoir le choix, avoir accès à autre chose. Et quand on parle d'autre chose, c'est pas juste une offre de fruits et légumes, c'est des fruits et légumes de saison, de qualité, de producteurs qui viennent de pas super loin non plus, comme ils ont dans les quartiers, voilà, qui sont un peu plus aisés. Aujourd'hui, il me semble que, enfin, au marché de Saint-Denis, je suis même pas sûre qu'il y ait des producteurs bio. Vous me confirmerez. Mais voilà, et ce qui est particulier aussi sur le sujet de l'alimentation saine, auprès des jeunes de quartier, c'est un peu plus difficile de les mobiliser parce que, pour le coup, ils se sentent vraiment impuissants sur ce sujet, tout simplement parce que c'est pas eux qui payent les courses, en fait. C'est ce dont on parlait juste avant. Ils vont se sentir plus légitimes, ils ont plus force de proposition sur le logement, sur l'éducation, sur les discriminations, que sur l'alimentation. On a un jeune, et je me souviens, ça m'a marqué, il nous disait... comment est-ce qu'il l'a formulé ? Il nous disait, oui, j'essaye de pas trop manger dans les courses pour que mes parents aient pas à les faire de façon trop récurrente, alors je vais pas en plus leur demander d'acheter des produits bio. Et de fait, sur cette question d'alimentation saine, il faut vraiment être capable de travailler en amont. Je sais que il y avait une sorte de passe alimentation saine avec une petite carte ticket resto, et ça fonctionnait très très bien parce que ces gens-là, une fois que l'aide elle s'est arrêtée, eh ben ils ont continué en fait à perdurer ces pratiques d'alimentation saine, même s'ils n'avaient plus le côté financier qui suivait. Et donc c'est vraiment des pratiques en amont qu'il faut faire perdurer et sur lesquelles en fait faut appuyer, parce que pour le coup, ce qu'on va mettre en place, des cantines partagées, etc., c'est hyper bien, mais il faut vraiment agir de manière structurelle.
Comment est-ce que le conseil départemental prend en main cette problématique de santé publique par ailleurs ?
Bon, je pense que Sarah Maria faisait peut-être allusion à un dispositif qui a lancé le département, qui s'appelle la carte Vitalim. Donc c'était une expérimentation. On a pris un peu le président de la République au mot, puisque pendant sa campagne présidentielle, il avait annoncé, il avait fait la proposition d'un chèque alimentation durable. Bon, très vite, il l'a un peu oublié, mais quand même, il faut avouer que l'État nous a a lancé un appel à projet dans le cadre d'un dispositif, d'un projet national qui s'appelle Mieux manger pour tous. Et le département de la Seine-Saint-Denis a répondu en collaboration avec une association, Action contre la faim. Et donc, c'est une expérimentation qui concerne à peu près 1400 personnes, avec l'idée que, au travers de cette carte, on verse une aide monétaire. Si je ne me trompe pas, c'est 60 euros, c'est ça ? 50 euros par personne pour permettre l'achat de produits et de biens. Cette somme, elle est bonifiée quand c'est des produits de l'alimentation durable, y compris dans des magasins qui fournissent ce type de produits. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aide monétaire, il y a un très gros accompagnement nutritionnel, notamment avec des associations de terrain, des associations locales, pour la préparation du repas, pour le choix des produits. Et la réalité, c'est que ça marche. On a y compris testé dans des villes un peu différentes, parce que bien évidemment, Sarah Maria le disait, c'est pas la même chose d'être à Montreuil où il y a un certain nombre de magasins bio qu'à Villetaneuse ou à Sevran. Je crois que la quatrième ville, ça doit être Clichy-sous-Bois, si je me trompe pas. On va poursuivre cette expérimentation. Sur la base des résultats de cette expérimentation, on en tirera un certain nombre de conclusions sur les comportements individuels et sur les besoins exprimés par les gens, et y compris d'en faire autant d'éléments pour un plaidoyer au niveau national, pour dire, vous voyez bien que ça peut marcher. Je précise aussi que je me suis adressé aux moyennes et grandes surfaces du territoire, qui sont pour l'instant les seules à refuser la bonification quand les gens utilisent la carte acheter des fruits et des légumes de saison, quoi.
Un autre sujet épineux en Île-de-France, c'est celui des transports en commun. Inès, de ton côté, là où tu habites, est-ce que tu as accès aux transports en commun ? Qu'est-ce que tu penses ? Des mobilités douces aussi ?
Alors moi, j'habite à Sevran, dans le 93, donc. Et en termes de transport, ce que je déplore, c'est pas totalement l'accès, puisque j'y ai accès. J'ai plusieurs lignes de bus qui desservent plusieurs directions et autres. J'ai notamment le RER B, pour moi, qui dessert à la fois Sevran-Bedotte et à la fois Sevran-Livry. En termes de mobilité douce, j'ai le permis, mais pas la voiture, donc je suis beaucoup amenée à me rendre là où je vais à pied ou alors à vélo parfois. Mais ce que je déplore, c'est la qualité des transports pour m'emmener d'un point A à un point B.
Ils sont vétustes, ils sont en retard, c'est ça ?
C'est train supprimé, c'est train en retard, pour bagages oubliés, etc. Donc c'est vrai que quand ça ne dépend pas forcément de la RATP, ça va encore. Mais quand ça dépend des trains retardés, supprimés, moi je prends la B. Et notamment, justement, on parlait de la canicule et autres, c'est déplorable ce que j'ai été amenée à prendre. La B, en fait, ça m'a pas du tout aidée, puisque certes, ça me permet de me rendre sur Châtelet, à Gare du Nord et autres, donc pour avoir des correspondances après avec des métros, mais les conditions dans lesquelles je voyage parfois, donc là, il y avait, c'était il y a 2 semaines, il me semble, on était à 37 degrés, 35 degrés, donc déjà ça chauffe, puisque j'habite en plus dans certains HLM, donc forcément ça chauffe pas mal. Mais les transports, on est monté dans la rame à 40-41 degrés, et c'est juste pas possible. Si on rajoute à ça les certains arrêts pour bagages oubliés et autres, c'est catastrophique.
Ouais, j'imagine. Aminata, est-ce que tu identifies des enjeux prioritaires en matière de transport et de mobilité ?
Absolument.
Parle bien dans ton micro.
Absolument, je disais. L'accessibilité des transports, d'un point de vue financier, économique, ça coûte cher de payer un pass Navigo, 100 euros, quand on gagne le SMIC ou qu'on est... quand on gagne moins que le SMIC ou qu'on est au RSA, on a des aides de solidarité. Mais quand on est étudiant ou étudiante, etc., ça coûte cher. Et quand on habite dans le 93... on prend énormément de temps en fait dans les transports. On perd du temps de vie, du temps de plaisir, du temps avec la famille, à faire des activités que d'autres peuvent faire, ont le temps de faire, à cause du temps perdu dans les transports, à cause des retards, etc. Mais même en dehors des retards, on passe énormément de temps dans les transports. Donc l'accessibilité économique et, comme je disais tout à l'heure, en fait, toutes les problématiques sont intrinsèquement liées. Quand on est pauvres, on a du mal à se rapprocher de Paris en termes de logement. Donc on est obligé de s'éloigner et en s'éloignant, on perd du temps de vie en fait dans les transports en commun.
Je vais vous poser une question à toutes les trois, Aminata, Inès et Sarah. Comment vous envisagez le travail avec les institutions, avec les élus? Et ensuite, je donnerai le mot de la fin aux élus, justement. Si un dialogue est possible, et je souhaite qu'il le soit au maximum, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux institutionnels, aux élus, aux décideurs, etc. Aminata.
Alors, premièrement, j'observe plein d'initiatives de la part des institutions, des initiatives de concertation, et on a tendance à perdre de la substance entre le moment de la concertation et le moment de la décision. Donc, on perd tout le subjectif, en fait, tout ce que les jeunes ou les habitants peuvent apporter à la décision. Et je pense qu'au-delà de la consultation, il faudrait faire en sorte que les concertations puissent servir à mener immédiatement et de façon plus directe à de la décision concrète, en fait. Okay. C'est ce que j'aurais à dire.
Intéressant. Inès.
Bah, moi, je vais rejoindre un peu ce que vient de dire Aminata, parce que ça a été, c'était très bien dit. En ce qui me concerne, je pense que des espaces de parole comme ça, où on peut justement déclamer sur les choses qui vont et qui vont pas, ce sont des espaces qui sont très importants pour nous, les jeunes, pour vous dire forcément ce qui va ou ce qui va pas, pardon. Et j'espère que ces espaces puissent perdurer, puisque ça nous permet aussi d'avoir des conversations sur des sujets qui, moi, personnellement, l'écologie, encore il y a quelques jours et quelques semaines, ce ne sont pas des sujets qui me viennent naturellement. Et donc, je m'y suis penchée là pour cette conversation-là. Et c'est pour ça que ces espaces de débat et des mots et des propositions qui sont pensées sur ces plateaux-là ou autres sont très importants pour moi.
Super. Sarah ?
Complètement d'accord avec vous. Ce que je rajouterais aussi, c'est de pouvoir collaborer sur le temps plus long entre les institutions et les organisations de terrain, pas forcément à l'échelle d'un projet ou deux, on se félicite et puis on se parle plus jamais, mais vraiment créer des relations de confiance, qui pourront perdurer dans le temps et qui pourront se mobiliser en dehors de partenariats. Et aussi pour faire ça, j'en viens à mon second point, c'est qu'il faut pouvoir considérer les acteurs de terrain, les associations de quartier, comme des acteurs qui sont complètement légitimes d'une part, pas seulement comme des jeunes ou bien des personnes du terrain, mais aussi comme des experts. Parce que tout simplement, on est toutes et tous experts en fait, des domaines dans lesquels on est engagés, que ce soit le droit, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'écologie, que ce soit la justice sociale dans les quartiers populaires. Et donc d'être considérés à cette juste échelle. Mon autre point, ce serait d'impliquer ces organisations, les acteurs de terrain, dès le début. Des stratégies, des réflexions, des projets, et pas simplement des ajouts, je vise personne, mais simplement de les ajouter à la fin, et puis comme si on pouvait mettre un coup de tampon validé par les orgas de quartier populaire. C'est un peu ce truc d'instrumentalisation contre lequel on lutte toutes et tous dans nos orgas. Et puis, ah oui, et moi je soutiens, avec GetUp, on soutient très très fortement, on encourage, alors c'est un peu plus grosse échelle, mais la formation de chaque agent administratif, élu, député aux enjeux sociaux du changement climatique, sortir un peu de cette approche très technique des impacts du changement climatique, parce que les élus, les députés, les agents administratifs, ce sont des personnes comme nous, et ils ont besoin de concret pour comprendre comment et ce qu'ils peuvent davantage inclure ces perspectives dans leur travail du quotidien, et donc on insiste là-dessus.
Merci. Merci Sarah Maria. On va donner la parole à Oriane Filol.
Merci. Je rejoins complètement sur le fait de voir associer, consulter les jeunes tout au long des dynamiques et pas seulement en fin de parcours. Et là, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec cette concertation jeunesse. Moi, j'ai aussi quelques collègues qui me disent « Bon, ça fait un an que tu nous parles de la nouvelle stratégie jeunesse. On a toujours rien vu aboutir. » Parce que oui, en fait, d'abord, on veut consulter toutes les personnes qui sont jeunes ou qui travaillent avec les jeunes pour après qu'on construise vraiment une stratégie politique qui corresponde aux attentes. Et comme je disais tout à l'heure, avec aussi, on va pas vous laisser tranquille tout de suite, parce qu'en fait, l'idée, ça va être aussi de revenir vers vous, les jeunes, fréquemment. Bientôt, un jour, vous ne serez plus les jeunes en question et ce seront d'autres jeunes, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que les jeunes de 2025, déjà entre 15 et 25 ans, on n'est pas les mêmes jeunes. Et puis, on évolue, on change de classe d'âge et ça va être important de re-questionner en permanence nos politiques publiques pour les adapter. Puis vous dire aussi qu'on a différentes enfin, en fonction de l'envie, des capacités d'engagement de chacun. Là, dans le cadre de la consultation jeunesse à proprement parler, on consulte les jeunes en direct. On évolue aussi, puisque vous le voyez, on est sur Twitch aujourd'hui, ce qui n'est pas un outil habituel pour le département, mais on cherche aussi à aller là où les jeunes sont et donc à parler directement aux jeunes, même ceux qui n'ont pas voulu se déplacer aujourd'hui, mais qui sont derrière leur écran, ils peuvent participer. Et puis, il y a le travail qui est fait avec les professionnels de la jeunesse. On essaye aussi de soutenir au quotidien l'engagement des jeunes dans le cadre de l'appel à agir In Seine-Saint-Denis. Plusieurs d'entre vous ici sont lauréats de ce dispositif. Et donc là, c'est vraiment du soutien aux associations qui s'engagent avec des jeunes ou carrément parce qu'ils sont jeunes sur différentes thématiques, et on en a de plus en plus qui sont engagés sur les questions de justice climatique. Et puis, je pense, dans les initiatives que je voulais vous partager aujourd'hui, parce qu'il reste encore quelques semaines pour s'inscrire, le département de la Seine-Saint-Denis a lancé une nouvelle initiative qui est le Conseil des 100 voix. Qui est un conseil citoyen pour les habitants de Seine-Saint-Denis. C'est à partir de 16 ans qu'on peut y participer. Il n'y a pas besoin d'être acteur dans une association, il n'y a pas besoin d'être une personnalité déjà qualifiée sur X sujet. L'idée, c'est vraiment d'avoir des habitantes et des habitants de tout âge à partir de 16 ans. Il n'y a pas besoin d'être inscrit sur les listes électorales, même pour ceux qui ont plus de 18 ans, c'est important aussi, puisque au moment des élections, seules les personnes qui ont la nationalité française peuvent donner leur opinion et choisir leurs représentants. Là, l'idée, c'est que ce soit beaucoup plus large. Il suffit d'habiter ou d'étudier en Seine-Saint-Denis. Et les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 août. Donc, je voulais profiter aussi d'avoir la parole ici pour inciter les jeunes à s'inscrire, à proposer leur candidature. Le conseil des 100 voix, okay. Exactement. Super.
Que le jeu de mots, les 100 voix, les 100, et les 100, le chiffre, et les 100, SANS. Voilà.
Je l'ai.
Juste si je peux rajouter.
Stéphane Troussel pour le mot de la fin.
Si je peux ajouter par rapport à ce que vient de dire à l'instant Auriane Filliol, compte tenu du niveau de défiance qui existe aujourd'hui entre les citoyens, les plus jeunes d'entre eux, et les institutions et leurs élus, de toute façon, ma conviction, c'est qu'il faut, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il faut faire la concertation sur le projet d'aménagement dans le bas du quartier, parce que c'est bien évidemment les citoyens, les riverains qui vont en être les usagers au lendemain de sa réalisation. Ça pose des questions d'engagement pour les citoyens, pour pas que dans quelques mois après sa mise en œuvre, ils découvrent un projet sur lequel finalement il n'aura pas pu donner son avis. Mais c'est vrai, ça pose aussi des questions de posture de nos propres techniciens. Parce que nos techniciens, ils arrivent avec leur vision parfois d'ingénieur, etc., mais pas forcément de l'usager du quotidien. Donc ça veut dire inciter, y compris ceux qui font au quotidien, d'avoir une posture par rapport aux citoyens. C'est la confiance dans la durée en multipliant les espaces de dialogue, d'échange, parfois de confrontation, mais c'est ça la démocratie, hein, c'est justement de savoir par le débat, l'échange, la confrontation, faire converger des points de vue dans l'intérêt de la société tout entière, et puis se donner des instances, des outils. Auriane parlait du conseil des 100 voix, du conseil qu'on a créé avec plus particulièrement pour les jeunes de l'ASE, pour qu'ils puissent donner leur avis à la fois sur le fonctionnement, sur les propositions qu'on peut mettre en œuvre. Donc oui, je crois vraiment, encore une fois, pour recréer de la confiance, il faut essayer de multiplier tous ces espaces. Et puis, dernière chose que je veux dire, bien évidemment, moi, je crois à la démocratie participative, de faire en sorte qu'elle puisse être vivante, alimenter le débat public. Mais disons aussi les choses, il faut que la démocratie représentative, elle soit aussi toujours plus représentative. Et là aussi, on a un peu de boulot l'accès à la fois des jeunes, des milieux populaires aux fonctions électives, j'en profite pour dire que on crée une innovation dans notre conseil des 100 voix évoqué par Auriane, c'est que l'engagement, participer à des instances, y compris dans la durée, ce conseil citoyen, ça peut vouloir dire partir plus tôt de son boulot, faire garder son enfant, prendre des transports qui ne sont pas toujours accessibles. Et donc, on a décidé, je pense que c'est une nouveauté, une innovation qui n'existe nulle part ailleurs, d'indemniser la participation. Je vois pas pourquoi les élus qui participent à tout un tas d'instances ont des indemnités pour participer à ces instances. Bien, les citoyens à qui on demande de s'engager, à qui on propose de s'engager, ils n'auraient pas une indemnité, une forme de compensation par rapport à ce que ça peut vouloir dire pour eux d'y participer. Et donc j'insiste vraiment aussi sur l'idée, je terminerai par là, que la démocratie est représentative par le choix des modes de scrutin, par l'accessibilité des fonctions électives, par la formation des élus. Elle doit aussi être plus à l'image de ce qu'est notre société, la diversité des parcours, la diversité des origines sociales, la diversité des uns et des autres, la place des femmes, des jeunes dans la vie politique. Et pour ça aussi, bah, il faut continuer d'agir et de rester mobilisé. En tout cas, merci à vous toutes et tous.
Merci beaucoup à vous, mes chers amis. Merci les invités. C'est la fin de cette émission. Je tiens à remercier le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui nous a accueillis. Merci à tous mes invités en plateau qui se sont prêtés à l'exercice. Je sais que ça peut être un peu intimidant. Vous avez été exceptionnels. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Au revoir.